Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Je suis aujourd'hui chez Jaina Capital avec Marc Simoncini. Salut Marc.
Bonjour.
Je suis ravi de te croiser. Ça fait un bail, j'étais déjà venu ici, je te racontais parce qu'on a travaillé il y a bien longtemps sur le site de Jaina. Mais surtout, je te racontais à l'instant que j'ai vraiment dévoré ton bouquin « Une vie choisie ». J'étais presque surpris en fait de le lire aussi vite et voilà, un bouquin d'entrepreneur, moi je m'en bouffe quelques-uns, j'aime bien ça dans l'absolu, mais de temps en temps c'est faut le dire quoi, c'est pas toujours bien écrit, c'est pas toujours tu l'as écrit tout seul?
Alors je l'ai écrit deux fois. La première fois je l'ai fait écrire par un journaliste qui s'appelle Luc Levaillant, qui est un mec formidable. On a passé des heures à raconter ma vie, il a écrit un bouquin super, mais une fois que le bouquin était terminé, je me suis dit je peux pas sortir un livre qui raconte mon histoire si c'est écrit par quelqu'un d'autre et surtout si ça va pas où je veux. Ce qu'il pouvait évidemment pas savoir, Luc Levaillant, c'est qu'en écrivant ce livre, ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est les raisons qu'ont fait que j'ai pu réussir j'ai pu continuer cette route de l'entrepreneuriat pendant des années. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi moi, qui avais rien au départ, mais aucun bagage et aucune antécédent familial dans l'entreprise, j'ai quand même pu partir sur cette route. Bon, ça, c'est peut-être le hasard, mais surtout y rester. Et donc, finalement, le livre, c'est que je fais un long chemin pour arriver à trouver qui j'étais. Mais c'est ça qui est très particulier dans ce livre, c'est que c'est à la fois des histoires de business, mais pas que.
Ouais.
Parce que je pense que l'entrepreneuriat, c'est un bon moyen de se réaliser, de se trouver.
Alors, j'ai pas absolument pas respecté le protocole. C'est peut-être parce que je suis un peu nerveux d'être en face de Marc Simoncini.
Oui, oui.
Non, normalement, je demande à mes invités de se présenter. Alors, Marc, est-ce que je peux te demander de te présenter?
Marc Simoncini, j'ai 57 ans depuis deux jours. 56.
Ah, non, c'est
56.
On va rarement dans ce
sens. Je sais pas pourquoi. Ça fait des années. C'est 6 mois que je crois que je vais avoir 57. Non, j'ai 56 ans. Je suis très content.
Ouais, j'ai une tendance à me rajeunir plutôt.
Moi, je m'en fous. Je suis fâché avec les chiffres. Voilà, j'ai créé des entreprises depuis très longtemps. J'ai monté ma première boîte, j'avais 22 ans. Et puis, j'ai pas arrêté depuis. J'en ai raté beaucoup, réussi quelques-unes. Et puis, je suis devenu investisseur. J'ai investi dans pas mal de boîtes. Et puis, maintenant, j'ai plein d'autres projets dont on va parler. Voilà.
Alors, ce qui est fascinant, parce que tu viens de toucher ça du bout du doigt juste avant de te présenter, mais je suis un peu plus jeune que toi. Je fais partie de la génération où tu vois je suis pas là pour te flatter hein, c'est pas l'idée, mais où Marc Simoncini tu le regardes en te disant putain le mec
il est vieux
non il s'est bien démerdé. Mais en fait, avant de lire ton bouquin, j'étais à peu près persuadé que tu t'étais toujours bien démerdé en fait, c'est-à-dire que t'as quand même galéré. Mais longtemps,
15 ans, c'était très très long. C'est ça justement qui est intéressant, parce que j'ai le deuxième livre que j'écris. Le premier livre co-écrit avec Capucine, c'était, j'ai dit à tous mes potes qui ont réussi dans l'internet, les stars, je leur ai dit, attendez les gars, vous allez me raconter votre histoire, mais la vraie, pas celle que la presse ou le public a entendue, vous allez me raconter la vraie, les galères derrière, les échecs, les erreurs. Et donc j'ai fait ce truc, c'est super, chacun a joué le jeu et tout le monde m'a raconté les erreurs qu'ils ont fait. Donc c'est très marrant de lire le bouquin à l'envers et de voir ce qu'il y avait derrière le...
T'aurais dû le faire en audio, t'aurais eu un podcast.
Je pense que oui. Et puis après moi, j'étais traité comme les cinq autres dans le livre, donc j'ai un peu survolé ma vie et mes galères. Mais quand j'ai commencé à vouloir raconter mes galères, je me suis dit là, faut faire un livre complet là-dessus, parce que on se rend pas compte de ce que c'est, de la somme de complications, d'erreurs, d'échecs que j'ai vécu.
Ouais. Ouais. Bon, vous voyez, on est dans Paris, on entend les sirènes derrière, je les couperai pas, donc...
Non, il y en a beaucoup ici, parce que c'est les chemins vers les ministères.
Ouais. Et du coup, ouais, et en effet, tu racontes un peu tes toutes premières années. Donc déjà, t'as un peu bourlingué, hein. T'es né à Marseille, c'est ça?
Ouais, je suis né à Marseille. J'ai quitté Marseille quand j'avais 15 ans. Mon père a été muté en Chalon-sur-Marne. Maintenant, on appelle ça Chalon-en-Champagne, parce que je pense qu'il y avait trop de gens qui se suicidaient avec dans ce village, tellement c'est loin de tout. En Champagne, c'est plus vivant. Et ensuite, j'ai atterri à Dijon, où mon père a encore été muté. J'ai passé quelques années là-bas. J'ai passé mon bac. Et puis, j'ai voulu faire une école d'informatique après avoir galéré dans des boulots de bûcheron, de manutentionnaire,
dans les égouts, hein, t'en parles un peu.
Et dans les travaux publics. Ouais, ouais. Mon premier job, c'était de creuser un égout. Voilà. Et après, je me suis dit, waouh, c'est compliqué, quoi. Il vaut mieux quand même que je fasse des études. Alors bon, les études, je savais pas du tout lesquelles faire. Et donc, j'ai fait la liste des écoles par ordre alphabétique, par sujet. Donc, il y avait gestion. C'était pas pour moi. H, hôtellerie. I, informatique. Je dis, tiens, ça a l'air sympa, ça. Je savais pas ce que c'était. Je me suis inscrit dans une école d'informatique et le premier jour, j'ai découvert que ça parlait des ordinateurs. Parce que pour moi, c'était, je savais pas ce que c'était que l'informatique du tout. Enfin, c'était en 85.
Ouais.
Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous dans une école d'informatique? Parce que je crois que j'ai eu la plus mauvaise note au bac de l'académie de Dijon. Et je me suis dit, c'est pas possible, avec 0,2 au bac, de me pointer en informatique. Et puis ça m'a plu. Et puis voilà. Et puis après, c'est parti comme ça.
Et pourtant, tu le dis, hein, je crois que, il me semble que ça, c'est un des trucs que j'ai noté, que t'es pas un très bon programmeur, t'as trop d'idées, et finalement, pas assez patient sur le
truc. J'allais trop vite, je programmais trop vite, je partais dans tous les sens, j'étais en train de coder une fonction que j'en avais déjà imaginé une autre, donc j'essayais de la mettre en route avant que le précédent ne soit fini. Enfin, c'était un truc, d'ailleurs, le seul patron que j'ai eu dans ma vie, Edmond Chaboch, qui avait monté la première start-up du monde, hein, puisque en 85, il est 83, lui, il avait dû la faire. Il avait monté une boîte qui développait des trucs online. C'était un truc de dingue. Et il m'avait vite repéré. Il m'a dit, celui-là, c'est un cauchemar en programmation. Mais par contre, il a plein d'idées. Donc, je leur filais des idées à tout le monde. Quoi. Et puis, je servais à ça.
Une sorte de chef de projet, finalement, un peu ou...
Ouais, c'est non. Parce que chef de projet, quand même, il est un peu structuré. Ouais, moi, Non, c'est un peu marketing. Quoi. Je leur donnais des idées d'améliorer des fonctionnalités, de trouver des trucs qui n'existaient pas. Voilà. Donc, j'étais un mauvais programmeur.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ta famille, t'étais pas le cancre, mais t'étais pas le par rapport à tes frères et sœurs.
Non, j'étais pas le cancre. Enfin, si, je l'étais, mais c'est surtout que j'avais qu'une seule passion dans la vie. Moi, c'était la poésie et la littérature. Alors, mon père était ingénieur, mon frère était ingénieur, ma sœur était financière, et moi, je lisais du Lamartine. Donc, mon père, quand il présentait ses enfants, il disait toujours Daniel, mon grand frère, arts et métiers, Isabelle, MBA finance, Marc. Et là, il hésitait. Il disait poète.
Et c'est un truc qui t'anime toujours, ça?
Ouais, bien sûr.
Ouais.
Bien sûr, bien sûr. Alors, j'ai été obligé de sacrifier beaucoup d'années de lecture quand j'ai monté ces putains de startups parce que je travaillais 20 heures sur 24 et j'ai beaucoup moins lu. Mais j'ai cet énorme regret et j'ai essayé de rattraper le temps. Et puis, on verra d'ailleurs que cette passion-là, je l'ai récupérée maintenant puisque je fais des choses qui sont un peu plus proches de la littérature que de la programmation.
Et quand tu étudies tout ça, enfin, quand tu lis de cette passion, tu te dis que tu pourras en faire quelque chose à un moment ou...
Alors, ouais, enfin, je vais te raconter une anecdote que peu de gens connaissent, mais avant de créer Mythique, juste avant, dans les années 2000, et j'avais vendu e-France, j'avais passé 6 mois ou 8 mois, je sais plus les dates, hein, chez Vivendi, et je me suis dit, faut que je trouve un nouveau projet. Et, je cherchais un projet autour des livres. Parce que je m'étais dit, après tout, la littérature, ça m'intéresse. Qu'est-ce que je peux trouver? Et j'avais parlé de ça à Fabrice Grinda.
Que j'ai eu sur ce podcast.
Qui, à l'époque, devait être aux États-Unis. Très bon épisode. Déjà. Ouais, Fabrice. Et je dis à Fabrice, écoute, je cherche un projet autour des livres. Je sais pas, t'as pas une idée ou un truc de maison d'édition. Voilà. Et Fabrice me dit, ah bah attends, ça tombe bien. Il y a un truc qui vient de se lancer aux États-Unis qui s'appelle Alf.com. Ça cartonne, le but du jeu c'est de revendre des livres à moitié prix et on devrait faire ça ensemble. Et là je pars bille en tête sur ce projet avec Fabrice, on se dit on va créer Alf, on appelle Gaël Duval, on dit hop hop et nous voilà partis pour créer Alf. Et puis plus le temps avance, entre temps la bulle éclate, plus je me dis mais attends mais moi je veux pas faire du business avec les livres, je veux les lire. Mais bon comme je m'étais engagé auprès de mes deux potes, ça part et on démarre. Et puis on voyait bien que c'était un peu mou, que Fabrice il commençait un peu à que Gaël était mal, que moi. Hein. Et on a arrêté Alf et quelques semaines ou mois avant ou après, d'ailleurs je sais plus, bah, Price Ministère est parti sur le projet. Voilà. Donc en fait on a failli être concurrent avec PKM sur ce truc-là avec Fabrice, mais bon moi je suis parti sur Mythique après.
Très bien. Et est-ce que ça explique aussi un peu l'écriture de ce bouquin? Enfin, je veux dire, le fait que c'est un...
Ouais. Ça a été un énorme plaisir pour moi d'écrire le livre la deuxième fois, même si ça a été une peine inouïe, hein, parce que c'est pareil, les gens ils disent, tiens, t'as écrit un bouquin, ils se rendent pas compte du temps que c'est. Surtout si on essaye de faire un livre écrit. Bon, mmh. Si on fait un style télégraphique, on raconte notre histoire, bon, ça s'écrit vite. Mais si on essaye de mettre un peu de chair, c'est un boulot de dingue. Hein.
Oui, j'ai eu Joël Dicker ou Bernard Werber sur ce podcast. Ils expliquent bien comment accoucher
voilà,
du
donc,
truc.
Voilà, donc il y a autant de travail et d'échecs quand on écrit un livre que quand on monte une boîte. Hein.
Et tu le trouves quand, ce temps pour faire ça?
Alors, j'ai mis longtemps. J'ai mis 3 ans, moi, à le réécrire, hein, avec le temps que j'avais. Donc, voilà. Et puis, à un moment donné, j'arrivais pas à le finir parce que c'est pareil. C'est un univers que j'ai découvert, mais si vous faites un film ou si vous écrivez un livre, le jour où il est terminé, c'est terrible. Pas parce que vous avez fini, c'est parce que vous allez le mettre dans la main des gens. Et là, ce jour-là, vous réalisez ce que vous faites et ce que vous avez fait. Moi, ça m'est arrivé quand le livre est sorti. J'ai appelé Olivier Noral, patron de Grasset. J'ai dit, tu sais quoi? Je rachète le livre, je le sors pas. Il me dit, pourquoi? Je lui dis, j'ai écrit ma vie, quoi. Qu'est-ce que je vais aller sortir un bouquin pour parler de ma vie? C'est pas possible, je peux pas faire ça. Donc, je te rachète le bouquin. Et Olivier me dit, mais t'es con, tu te rends compte, t'as bossé 3 ans. Et j'ai dit, ouais, mais je m'en fous. Et puis, j'ai eu une bonne idée. Une nuit, j'ai dit, ok, alors attends. Finalement, à la base, tu m'avais demandé d'écrire l'histoire de Mythique. Alors, j'ai raconté un peu avant et un peu après. Mm-hmm. Mais à la base, tu m'avais demandé de raconter l'histoire de Mythique. Alors, je te fais un deal. J'accepte de sortir le livre à condition que tu reprennes tous les exemplaires et que tu mettes un bandeau sur les dessous de Mythique. Parce que si je sors un livre sur Mythique, bon, j'en ai tellement parlé que ça me gêne pas. Et donc, on a truqué le truc, la sortie, et on a dit que le livre, finalement, c'était les dessous de Mythique, ce qui est pas vraiment le but du livre. Mais au moins, moi, ça m'a permis d'assumer le fait que je raconte ma vie aux gens. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est très très compliqué de parler, d'écrire un livre, et surtout quand il s'agit de parler de soi, c'est très très compliqué.
Il y a un truc, alors tu viens de dire que le livre, c'est un peu le côté un peu stressant de te livrer et de le donner à tout le monde, mais qui revient quand même dans ton livre justement, c'est la cession de tes entreprises et les périodes qui suivent, qui ont l'air assez terribles.
En fait, ça se confond avec des moments de vie. C'est que en gros, franchement, une start-up, entre le moment où on commence à bosser dessus et le moment où on a la chance de pouvoir la vendre, il y a à peu près 10 ans. Bon, voilà, c'est à peu près. Donc, iFrance, c'était 10 ans. Mythique, c'était 10 ans. Donc, c'est 10 ans de ta vie qui sont des vies de dingue parce que tu passes 100% de ta vie sur ces projets. C'est un truc où ça bouffe tout, quoi. Et donc, quand tu les vends ou quand t'arrêtes, tu te retrouves avec un énorme vide. Et tu dis, waouh, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant, quoi? Je bossais 20 heures, là, j'ai plus rien. Donc, tu tombes un peu dans cette espèce de syndrome de l'alpiniste qui dit, j'ai monté cette montagne, maintenant, je fais quoi? Alors, ça se cumule avec un deuxième problème. C'est quand tu vends, t'as de l'argent. Donc, il y a des gens pour qui c'est la fête. On dit, ouais, ça y est, c'est génial. Moi, ça a été un énorme problème d'assumer l'argent que j'ai touché. Donc, en plus, moi, j'ai cumulé un deuxième emmerde avec le pognon. Et donc, on peut dire que les 2 fois où j'ai vendu, j'ai été très, très down dans les mois qui ont suivi. C'était très, très compliqué de me séparer de ces bébés-là.
Sachant que le vide, en plus, il est pas que dans le temps de travail, on s'en rend pas bien compte, mais c'est aussi dans la préoccupation intellectuelle, dans le fait que tous les matins quand tu te réveilles, tous les soirs quand tu te couches, toutes les nuits quand tu dors pas, ouais, tu penses à ton business, et là tout d'un coup tu sais plus à quoi penser.
Et là tu dis, je fais quoi? Ouais, non, c'est très étonnant comme sensation. Alors c'est inouï comme chance, et c'est génial de l'avoir fait 2 ou 3 fois. Mais ça, il faut s'y préparer. D'ailleurs, quand j'ai vendu Mythique, je savais que ça vaudrait beaucoup d'argent, donc je savais que j'allais en toucher encore beaucoup une deuxième fois. La première fois, je m'étais arrangé pour le perdre. Cette fois-ci, j'étais pas sûr d'avoir envie. Et donc, avant de vendre Mythique, j'ai tout de suite créé Jaina en me disant, hop, ça va pas tarder la session. Donc, déjà, tu te mets dans un run sur un nouveau projet. Ce qui fait que le jour où Mythique est vendu, tu arrives au bureau et tu as déjà des emails. En gros, c'était ça que j'ai fait. Et donc, j'ai créé Jaina sans vraiment beaucoup d'argent parce que je l'avais pas encore touché celui de Mythique. Mais j'ai fait 1 an en biseau comme ça pour me retrouver pas trop démuni quand la session fut venue.
Cette crainte absolue de plus recevoir d'emails.
C'est une bonne image. Hein.
Oui, c'est une bonne image. Alors, on va revenir sur ton parcours. Ta première boîte, tu l'as créée en 82, c'est ça, à Dijon? C'était 82?
85.
Ah oui, pardon, tu l'as dit.
J'ai passé le bac en 82. Non, 85. Et elle s'est plantée en 89. Ouais, okay. C'est vieux, hein.
Ça, c'était ta boîte, donc, qui s'appelait, 3 lettres.
Ça s'appelait CTB.
CTB. Bourgogne, hein, c'est ça, le B.
Putain, ouais, parce que j'avais un IVM, je trouve des actionnaires. Moi, donc, il y a un gars qui faisait des travaux publics, qui m'avait dit, j'investis chez toi. J'ai dit, ah bon, il me dit, c'est une SA ou une SARL? Je savais aucune idée de ce que c'était. J'ai répondu au hasard, une SA. Il m'a dit, il faut être 7 actionnaires. Là, je l'ai regardé, merde. Et bon, bref, je me suis retrouvé avec 7 actionnaires qui faisaient du BTP. Et il m'a dit, tu vas appeler comment ta boîte? J'ai dit, écoute, je sais pas, mais on va faire de la communication, de la télématique. On va appeler ça communication télématique. Et il me dit, c'est bizarre comme nom. Je dis, oh. Il me dit, non, on va rajouter Bourgogne. Ah. Et donc, j'ai dit, ouais, ouais, super. Et donc, j'avais la première startup, Bourguignonne. Après, j'avais remplacé le B par business parce que c'était dur à assumer le Bourgogne. Donc, voilà, c'était pas un génie marketing du, on a démarré comme ça.
Et cette boîte, donc, faisait du 36-15, hein, donc des sites.
Non, elle développait des logiciels,
oui, c'est ça,
pour les journaux. Parce que la presse, à l'époque, était en train de basculer vers le numérique. Ils savaient qu'ils perdaient leur business des petites annonces. Ils savaient qu'ils perdaient plein de business et qu'il fallait qu'ils tournent sur des serveurs. Et donc, nous, on développait les technos pour que les journaux aient des 36-15. Alors, évidemment, à Paris, Libé, Le Monde, tout ça, ils avaient des tas de boîtes qui faisaient ça. Mais en province, personne faisait ça. Donc moi, j'écumais les petits journaux de province, en Auvergne, en Bourgogne, à Auxerre, et je faisais le 36-15, machin, le 36-15 truc.
Tu partais avec ta voiture, t'allais...
Les radios locales, les radios locales. Alors évidemment, Énergie, ils avaient leur site, ou Nostalgie, quoi. Que j'avais fait le 36-15 Nostalgie après, quelques années après. Mais sinon, je me tapais Radio Bleu Auxerre, Radio Mimille à Toulouse. Enfin, c'était des trucs. Puis alors, fallait voir les mecs qui montaient les radios libres à l'époque.
Mais toi, t'étais le VRP de la boîte, quasiment.
Ah bah, j'étais seul. Enfin, j'avais un développeur et moi. Et donc, lui, il développait et moi, je vendais. Donc, je prenais ma bagnole, je traversais la France, je faisais des rendez-vous dans les boîtes de nuit parce que souvent, les mecs qui avaient des radios, c'est des mecs qui avaient des boîtes de nuit. Donc, je me retrouvais avec le gars qui fumait des pétards à 4h du mat avec sa boîte qui fermait, qui avait un petit local qui faisait la radio à côté et à qui il fallait que je négocie du business après la fermeture de la boîte. Ouais. Moi, j'étais défoncé de fatigue, lui était défoncé du reste. Et j'essayais de lui vendre des trucs à 15 ou 20 000 balles à l'époque pour faire son 36. Oh là là. Ah, c'était long, hein. Non, c'était long.
Et cette boîte, donc ça déjà, ça t'a tu racontes un peu, ça t'a un peu saoulé, c'est-à-dire le fait de bosser en tant que qu'agent entre guillemets, enfin agence quand je dis agent, mais
le B2B, peux résumer comme ça, le B2B, j'ai une aversion totale au B2B. Je développais des tas d'applications pour des tas de clients. Alors j'ai pas fait que des 36-15 pour les radios, hein. On a fait des tas de trucs super intéressants, mais bon, voilà, j'étais SS2I, donc les mecs me demandaient des programmes, je les développais, puis quand ça marchait pas, je me faisais engueuler, quoi. Et c'est eux qui gagnaient l'argent avec le 36-15, donc j'étais vraiment... Je vendais des pelles et des pioches, j'étais pas du bon côté, quoi.
D'accord. Mais pourtant, on peut se dire que les pelles et les pioches, c'est le bon côté, selon...
Je me suis trompé, vraiment, me suis trompé de côté, quoi. J'aurais mieux fait de faire des gros 36-15 à moi et de les exploiter, quoi, plutôt que de les faire pour les autres, c'était débile.
C'est sur cette boîte que t'avais emprunté de l'argent à tes parents?
Oui, forcément, c'est sur la première, puisque mon père m'avait prêté, je crois qu'il fallait mettre 20 000 francs de capital, donc il m'avait prêté 20 000 francs à l'époque, que je lui ai rendu après avoir vendu e-France, donc 20 ans plus tard.
Et c'est ça. Hein.
Et je pouvais pas lui rendre avant. Je ne pouvais vraiment pas lui rendre. Mais là, je lui ai rendu. Le jour où j'ai vendu e-France, j'ai envoyé un chèque à mon père. Non,
20 ans, c'est ça. Moi, c'est ça qui me, c'est ce chiffre qui...
Ah, 85, 2000, ouais. 15 ans, pardon.
15 ans.
15 ans, pardon.
Et 15, 20 ans, ouais.
C'est, 15 ans de galère.
Et, c'est ça. C'est
ah, mais, je peux pas savoir. D'ailleurs, je repensais à ça la dernière fois. Je me suis dit, bon, tout le monde dit, oui, la France, machin, les impôts, les taxes, l'URSSAF, tout ça. L'URSSAF, quand tu prononçais le mot URSSAF en 1985, t'hésitais entre l'échafaud et la chaise électrique. Enfin, pour toi, quand les mecs arrivaient, c'était, bon, ok. Tout le monde m'avait dit ça. Si tu payes pas l'URSSAF, t'es mort. Je crois que pendant 15 ans, j'ai envoyé un petit mot à la main à l'URSSAF en disant, je suis désolé, je peux pas payer mes charges. Je vous envoie 3 chèques. C'est complètement illégal, hein. Et l'URSSAF, pendant des années, a accepté de débiter mes chèques en 3 fois sans me faire chier. Et heureusement, quoi, parce que s'il m'avait demandé de payer mes charges au one shot, j'aurais déposé le bilan 18 fois. Et donc, je bricolais comme ça. Je vendais ma bagnole quand je pouvais pas payer les salaires. Donc, je vendais ma bagnole, je prenais le chèque, je mettais ça dans la boîte, je payais mes salariés. Et puis après, je rachetais une voiture le mois d'après quand je pouvais. Enfin, c'est un truc. C'était long.
Mais c'est ça. En fait, moi, ça fait à peu près 15 ans que j'entreprends. C'est une éternité, en fait. C'est vraiment une éternité.
Éternité. Alors après, je peux dire, j'ai vraiment foutu 15 ans de ma vie en l'air et j'aurais mieux fait de bouquiner, quoi. Mais...
Pourquoi tu dis ça?
Bah, ça pourrait être une manière de voir les choses. Oh, putain, ah oui. Qu'est-ce que j'ai foutu pendant 15 ans, quoi. J'aurais mieux fait d'arrêter et puis je pourrais faire n'importe quoi, une pizzeria, un kebab ou une radio libre. Mais non, parce que j'ai croisé des tas de gens qui m'ont envoyé des tas de problèmes et donc ils m'ont obligé à beaucoup réfléchir. Parce que j'avais des clients qui avaient des problèmes à la con de observer les éclairs qui tombaient sur la France, des mecs qui contrôlent des cuves de pyrolyse, des trucs. Mais il fallait bien que je comprenne leurs problèmes, puisque mes programmes étaient censés résoudre leurs problèmes. Et donc, pendant 15 ans, j'ai pris des problèmes à la con dans la figure, et j'ai été obligé de réfléchir sur ces problèmes-là. Mais mine de rien, Alors évidemment, c'était pénible, mais ça m'a appris un nombre de trucs incroyables.
Mais c'est ça la beauté du B2B, du service. Moi, je trouve que la beauté du service, c'est de découvrir les métiers des autres.
Voilà. J'ai appris le métier de dizaines de gens.
Ouais. Moi, j'adore
cette partie. Ça m'a resservi. Quand j'ai remonté une boîte de dameuses il y a 7-8 ans, j'avais des trucs avec des machins, des tuyaux, des fluides, ce que j'ai fait dans... Quand j'ai creusé mes égouts, c'est une moi boîte... qui branchais les câbles des pelleteuses et qui mettais l'huile dans les pelleteuses pour que le système hydraulique fonctionne. Bah, tu sais quoi, 20 ans plus tard, une dameuse, c'est le même fluide et les mêmes trucs. Donc, quand il me parlait des flexibles, je savais de quoi il me parlait. Le mec, il s'est dit, mais comment il connaît ça, celui-là? Eh ben, parce que moi, j'étais dans les travaux publics et je branchais la pelleteuse le matin. Donc, finalement, ces 15 ans-là, ça m'a appris beaucoup, beaucoup de choses que j'ai dû réutiliser après.
Est-ce que si je le savais pas que tu avais eu ce parcours et que tu es passé dans ces travaux publics et que t'as touché des pelleteuses et des fluides et des choses comme ça?
Et de la merde.
C'est de la merde. Est-ce que c'est parce que tu le cachais ou est-ce que c'est que c'est des choses qu'on dit pas et on te met en avant que sur ton côté?
Ouais, je le cachais, je sais pas. Quand j'ai commencé à être un peu médiatisé sur e-France, qu'est-ce que j'étais avec Messier dans les journaux, qu'est-ce que je lui raconte que j'avais à peine le bac et que j'avais démarré dans les égouts? Enfin, tu vois, c'était dur à assumer quand même, hein. Je me retrouvais dans des comex avec des polytechniciens dans tous les sens, des énarques, je le disais pas, voilà.
Et on ressent cette ambivalence qui revient dans ce livre. Dans ta vie d'ailleurs, mais c'est ce côté, j'ai un peu la chance d'avoir, un bac plus 2 et d'avoir arrêté là, et ça m'a apporté beaucoup de choses. Et à la fois, il y a des moments où j'ai des lacunes, non?
Alors, c'était extrêmement intéressant cette question parce que finalement, je me suis bien débrouillé, j'ai réussi à quand même créer ma boîte et machin, etc. Mais j'ai très vite, non pas pris conscience parce que ça, je le savais très vite, mais accepté l'idée que j'étais pas le meilleur partout. Et donc, j'ai mûri assez vite sur ce sujet-là. On pourra parler après de mes investissements et des gens que j'ai croisés. Mais le fait qu'un matin, tu te dises « Ok, je suis en train de piloter une fusée, mais moi, j'ai un permis scooter. Est-ce que vraiment, tu vas faire le malin longtemps ? Ou est-ce qu'à un moment donné, tu vas dire « Tu sais quoi, je vais mettre un pilote à la tête de la fusée parce que lui, il sait, il est structuré et moi pas. Et tant pis si c'est lui qui conduit et j'accepte de m'asseoir sur le siège passager, même si c'est moi qui ai créé la boîte. » Je l'ai fait assez tôt. Et donc, sur e-France, j'ai pris des gens qui étaient très structurés avec moi, qui m'ont aidé. Sur Mythique, j'ai pris un DG formidable, Philippe Chaigneux, qui a pris les rênes et qui m'a aidé à développer ce truc-là, parce que sans lui, j'y serais jamais arrivé. Et je me suis très vite assis sur mon ego, je leur ai très vite fait confiance, et j'ai très vite acquis cette maturité de se dire que je pouvais pas être le meilleur partout. Et donc, cette espèce de complexe que j'avais, qui pouvait me dire, attends, tu vas voir, moi, t'es centralien, mais je vais te montrer que je suis plus fort que toi, je l'ai pas eu. Pas beaucoup.
Tu leur laisses l'opérationnel, mais tu restes quand même le taulier.
Tu sais, ça veut plus dire grand-chose à partir du moment où t'as, je parle de Mythique là pour le coup, mais t'as 60 projets en parallèle, de trucs de dingue, avec des boîtes aux États-Unis, enfin des actionnaires aux États-Unis, des sites en Chine, un mec au Brésil, des consolidations dans tous les sens, la bourse, les trucs. Et que toi, tu sais plus faire grand-chose de tout ça, à part donner globalement la direction, on continue, on vend. On ferme,
mais elle est
on rachète.
Elle est primordiale.
Enfin, tu vois, t'es le taulier, mais t'es le taulier de loin, quoi.
Le reste aussi. Je suis pas sûr en plus que ça te passionne plus que
Non, en plus ça me casse les pieds. Mais t'es le taulier, mais enfin t'as quand même le mec qui fait la fusée, qui l'a conduit, qui l'a fait marcher derrière, quoi. Et il faut accepter ça.
Je te cite, mais tu dis heureusement, je finis par accepter l'idée de m'entourer de gens bien meilleurs que moi sur à peu près tous les sujets, sauf un où je reste imbattable. Les idées à la con.
Oui, c'est ça. C'est ça. C'est que moi, je sortais des chiottes à chaque fois en disant, les gars, j'ai une idée. Et là, tu voyais toute mon équipe qui était consternée. Chaque fois que je vais pisser, j'ai une idée. Il paraît que c'est vrai.
Tu sais que je suis très fort en idées à la con. Je pense qu'on pourrait faire un combat un jour.
Donc là, je voyais tout le monde consterné en disant, merde, qu'est-ce qui va nous sortir?
Mais t'as pas cette. Parce que moi, je suis très fort en idées à la con. Et de temps en temps, je me plonge un peu dedans et je fais la connerie de m'embarquer dans une idée à la con dans laquelle je perds beaucoup de temps, un peu d'argent, voire beaucoup d'argent, et où en fait à la fin tu te dis non mais apprends, enfin arrête d'être aussi con et de parce que juste en fait ça me fait marrer quoi.
Ouais, mais parce que t'as pas assez d'idées à la con, parce que quand t'en as beaucoup tu as même pas le temps de les creuser. Donc quand vraiment il y en a une dans laquelle tu vas, c'est qu'elle t'a turlupiné pendant des semaines, donc elle est plus vraiment à la con. Tu vois, il faut vraiment, quand t'en as beaucoup, tu peux pas les, même pas réfléchir demi. Enfin, j'ai un carnet où je
moi, c'est ce que j'allais te demander. Tu les mets sur un carnet?
Ouais, bon, je le fais plus. Mais je le fais plus parce que je me méfie de moi-même. Je me dis, attends, top. Tu vas retrouver encore un truc pour faire encore une idée. Tu vas encore avoir une idée. Tu vas encore faire une start-up. Donc, je préfère les oublier. Ou je les file à des gens. Mais moi, je veux plus.
On reviendra un peu sur les dameuses tout à l'heure. Le passage de CTB, donc tu la plantes cette boîte?
Ouais, je la plante parce que je prends un gros impayé. Enfin, c'est un peu de ma faute. Hein. J'avais vendu un gros serveur à un Suisse et puis j'avais envoyé un devis. J'avais pour 1 million. À l'époque, un franc suisse, ça valait 3,50 francs. Hein. Et le mec me dit, OK, ça fait combien en francs français? Et là, je lui dis, merde, putain, mais il a cru que c'était 1 million de francs suisses. Donc le devis que j'avais fait 1 million de francs, le mec, il me passe une commande à 3,5 millions.
Bien.
Et je dis rien, moi. Je dis, ah bah ouais, c'était ça, mon devis. Bon, j'envoie, je fais le truc, j'envoie la facture. Et là, le mec réalise que, alors moi, entre-temps, j'avais dépensé les 3 millions et demi. Hein. Ouais. Et le mec me dit, non, mais attendez, moi, je parlais en franc français. Et là, il me plante de 2 millions et demi. Voilà, donc, c'était le truc. Et donc, j'ai déposé le bilan. J'avais plus rien à faire. Et je me suis dit, bah, je sais rien faire. Donc, je recrée une boîte et je vais bien trouver une idée. Voilà. Donc, j'ai recréé une boîte quasiment le lendemain. Il se trouve que j'ai pas été condamné par le tribunal à quoi que ce soit.
Oui, tu expliques cet épisode.
Oui. Ils m'ont dit, voilà. Donc, ils m'ont laissé recréer des boîtes. Heureusement, merci. Et donc, j'ai recréé une autre boîte et je suis reparti encore sur des trucs.
J'aime beaucoup cette remarque de, je savais pas trop quoi faire. Du coup, j'ai recréé une boîte. Tu vois, c'est vraiment, il y a quand même beaucoup de gens qui raisonnent dans l'autre sens. C'est se dire, j'avais envie de créer une boîte, mais j'avais trop de choses à faire.
Je dis pas que j'ai raison, hein.
Non, je suis d'accord.
Je sais ce que j'ai fait comme ça, quoi.
Ok. Et donc, cette deuxième boîte.
Alors, cette deuxième boîte, elle est partie à peu près avec les mêmes idées que la première, sauf que cette fois-ci, j'ai quitté cette capitale numérique qui était Dijon pour venir à Paris. là, j'ai développé des trucs sur.
T'as pris ce risque?
J'ai pris ce risque inouï. Je me suis installé à Paris. J'ai galéré pendant encore des années avec des produits que j'avais inventés qui se pluguaient sur le Minitel. Enfin, des trucs de hardware.
Souris, notamment, je crois, non?
Un peu. Ouais, j'avais inventé un petit boîtier qu'on mettait derrière le Minitel avec un processeur, de la mémoire, des logiciels et une souris. Donc, quand tu pluguais ça sur un Minitel, bah, t'avais un modem, un écran à clavier gratuit et un petit truc à 200 € qui te faisait un petit ordinateur.
Donc tu pouvais utiliser ton modem offline.
Et tu utilisais le Minitel comme un ordi. Donc j'avais inventé l'ordi le moins cher du monde. Ça, c'était l'idée. Alors après, il fallait trouver des applications. Enfin, j'en ai vendu quelques milliers. Ça m'a un peu fait vivoter. J'ai continué à faire un peu des 3615.
Et comment tu fais, pardon, du hardware? Parce que moi, je sais faire du hardware où je comprends comment t'en fais en 2015, 2019, en passant sur Alibaba, en trouvant des gens. C'est même beaucoup plus compliqué que ça, d'ailleurs. Mais comment t'en fais en 95?
Ben, j'avais été associé dans ma première boîte à Dijon avec un génie du soft et du hard, un gamin qui s'appelle François Vignon, qui était mon directeur technique de l'époque, et qui, lui, savait faire du hard. Donc, je lui ai dit, voilà, j'ai une idée, on a développé la carte électronique, on a fait un ASIC, on est allé chercher des subventions pour les programmes électoraux, un truc de dingue, quoi. Et on a fabriqué cette petite appareil qu'on avait appelé Moustel au début, puis après, on a changé de nom. Et voilà, et on a vécu avec ça pendant quelques années, on a fait des 3615. Et là, ça vivotait. Et ça a vivoté jusqu'à un matin où j'ai découvert Internet. Et là, ça a été le début d'une autre histoire, puisque là, Internet étant là, ça a changé de dimension.
Et tous les autres, excuse-moi l'expression, dinosaures du Minitel, ouais, qu'on voit aujourd'hui, qui existent, qui sont, enfin, certains gros industriels, tu les connaissais à l'époque?
Tous.
Vous connaissiez?
Tous.
Vous voyiez?
Oh, bah, non, il y avait des affinités, mais on se connaissait tous. Les gens du Minitel, on se connaissait tous. Voilà, il y en a qui. Oui, on les connaissait tous. Mais on se voyait pas des masses.
D'accord. Et vous voyez aujourd'hui ou pas plus que ça, d'ailleurs?
Oh, bah, c'est pareil, c'est par affinité. Ouais. Des gens que je vois plus que d'autres. Puis il y en a que j'ai plus jamais revu.
Elle est marrante, cette histoire, quand même, parce qu'il y a quand même des gens comme toi, comme Xavier Niel, comme plein d'autres qui sont arrivés dans le Minitel tous un peu par hasard.
Ouais.
Et qui se retrouvent aujourd'hui à la tête de plein d'investissements, de grosses boîtes.
Il faut te remettre dans le contexte. Nous, on avait fait du online pendant 15 ans.
Ouais.
Du online. T'envoies une requête, le serveur te renvoie une réponse et ça s'affiche. Donc, on avait tout inventé déjà.
Oui, tu avais un cerveau structuré.
Et on avait tout inventé, à technologie près. Mais on avait tout imaginé sur l'Initel, tout existait. Tu achetais des billets de train, tu faisais des horoscopes, tu faisais des rencontres, tu avais un moteur de recherche, il y avait la météo. On avait tout inventé à la technologie près. Et donc, quand le Internet est arrivé, on a juste vu un terminal plus intelligent pour continuer à développer les idées qu'on avait eues pendant 15 ans. Donc, on a pris une avance de dingue.
Tu avais même une avance sur pas mal d'Américains,
mais
j'imagine.
Mais quand je suis allé dans mon... Mais oui, quand on est allé en 99 ou 18 à San Francisco pour le premier congrès mondial de l'Internet. Donc là, je me pointe dans, là-bas et je vois des Américains. Il y avait Netscape à l'époque, il y avait toutes les stars de l'Internet américain. Les mecs, ils étaient en train de compter les requêtes avec des pings. Les stats des sites, c'était des pings. Je me dis, mais vous êtes complètement cons. Si vous mettez 6 images sur une page, ça fait 6 pings, c'est pas 6 visites. Ils avaient même pas la notion de visite à l'époque. Nous, on avait les visites, le temps passé, la moyenne, les machins, les sessions. On avait 15 ans d'avance. Et le mec, il me regardait comme un extraterrestre en disant, mais comment ce mec, il me parle de sessions quand nous, on compte des pings? Donc, ils étaient très en retard, pas sur la techno, mais sur la... La logique du online, après ils ont vite rattrapé, mais on était loin d'être ridicule. C'est pour ça que les gens qui ont fait du Minitel ont démarré très vite et très bien sur Internet, sauf ceux qui n'ont pas cru à Internet.
Oui, il y a une partie des gens du
Minitel. Parce qu'il y a une partie de gens qui étaient très très arqués sur leur truc et qui disaient Internet ça marchera jamais.
Qui faisaient des montagnes de pognon déjà.
Montagnes de pognon.
Donc du coup à un moment ça biaise. C'est la difficulté, c'est de passer d'un... Quand t'es assis sur un tas d'or...
Tu veux surtout pas que ça change. Ouais. Hein, c'est le problème d'à peu près de tout ce qui a été disrupté après. C'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je saute de l'arbre ou est-ce que j'attends que l'arbre soit coupé, quoi? Et il y a beaucoup de gens du Minitel qui sont restés accrochés à leur arbre et qui sont tombés.
T'as eu peut-être la chance de pas être sur un tas d'or sur le Minitel à ce moment-là, finalement.
Ah, moi, j'étais pas sur un tas d'or. J'étais en bas de l'arbre, moi. Donc moi, quand j'ai vu l'arbre, j'ai dit, je vais vite grimper, quoi.
Tu sais, il y a un arbre plus gros qui pousse à côté.
C'est ça,
quoi.
C'est ça. Et moi, j'avais pas grand-chose à perdre.
Et ça se matérialise comment, la découverte d'Internet? Alors déjà, c'était où? Tu te souviens de
l'endroit?
Ouais,
très bien, parce que, en fait, j'ai fait un bébé par start-up, moi. Donc là, j'avais ma fille qui venait de naître. Donc elle dormait pas. Il fallait faire des biberons la nuit. Donc j'étais l'expert du biberon de la main gauche. Donc j'avais ma fille, le biberon comme ça, puis je regardais pas trop ce qu'elle faisait. Mais avec la main droite, j'étais connecté sur mon ordi, avec un modem à l'époque. Et puis un jour, j'ai dit, bon, allez, je me lance, j'installe le merdier pour voir ce que c'est qu'Internet. Oh, ça m'a pris une nuit. Et que je trouve un navigateur, et que je trouve un fournisseur d'accès, et machin. Puis à un moment donné, vers 6 heures du mat, j'ai la première page qui s'est affichée. Je sais plus ce qu'il y avait sur cette page. Sur un browser.
En couleur.
En couleur. Et là, j'ai vu un truc, je me suis dit, ça y est, j'ai compris. Il y avait une bannière de pub. Et là, je dis, oh putain, j'ai compris. Et j'ai ouvert le code de la page. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette magie, quoi? Comment c'est codé? Là, j'ai vu du HTML. Du HTML, c'est quand même...
Quel âge, à cet âge-là?
C'était en 2000, donc j'avais 37 ans. Et là, je vois le HTML, je me dis, c'est très con, ce truc. Donc, je regarde, je télécharge un petit truc de HTML, je me dis, c'est complètement débile, quoi. Et là, je me suis dit, super puissant.
C'était avant 2000.
Ah oui, non, c'est 97, 98, ouais. J'essaie de calculer mon âge.
Ouais.
Et je me dis, la techno est super simple, le serveur HTTP c'est très con, le HTML c'est très con, et le truc est ultra puissant, donc ça va changer le monde. Donc le matin, j'ai couché ma fille, j'ai appelé mon associé, et je dis, tu sais quoi, on va appeler tous nos clients, il me restait, je me rappelle à l'époque, 500 000 francs sur le compte en banque de la boîte. J'avais bossé 15 ans, hein. Et j'ai dit à François, on arrête. Tous nos clients, on leur dit qu'ils allaient se faire foutre. On travaille
75 000
plus.
Euros, juste pour voir.
75 000 euros. On arrête de travailler pour eux. Et avec les 75 000 euros, on développe un site internet. Et quand on n'a plus d'argent, on le lance. Et on a développé e-France.
J'aime bien cette démarche. Quand on n'a plus d'argent, on le lance.
Et oui, mais tu veux faire.
Oui, mais donc l'argent, il n'est pas tombé dès le lendemain du jour où tu l'as lancé. Non,
mais j'ai payé François, les machins, les trucs. Et puis un matin, j'ai dit à François, quoi, demain matin, c'est mercredi, on n'a plus un sou, on ouvre le site.
Oui, mais du coup, il n'y a pas du pognon qui est tombé du ciel. Si, dès le premier
du
jour.
Pognon, non, mais du trafic.
Du trafic.
Et oui, là, on a commencé à avoir du trafic. Ouais. On est sur le site, créer des sites, ça générait du trafic. D'autres gens venaient, commençaient à mettre des bannières de pub. Et là, on s'est dit, waouh.
Non, mais en fait, je me marre parce que c'est aussi... faut faire attention à pas ce qu'on passe le mauvais message. C'est que, par exemple, nos clients, chez Cosa Vostra, viennent, nous font construire des sites et ils pensent que le jour
où le site
ouvre... l'argent tombe, coule à flot.
Ah oui.
Et ça, non.
Non, je vais pas parler d'argent, moi j'ai parlé de trafic. Sauf que, coup de bol.
Oui, mais comme t'as plus d'argent, puisque tu
dis
qu'on a plus d'argent.
Oui, mais coup de bol. Alors là, ça, c'est la catastrophe, parce que c'est encore pire, puisque plus t'as de trafic, plus tu payes de bande passante. Oui, donc tu creuses le trou dans lequel tu vas mourir.
Surtout à l'époque, ouais.
Surtout à l'époque. Donc là, je dis, c'est la cata. Sauf que là, il m'arrive un truc dingue du ciel, c'est la bulle Internet. Et que dans la tête des gens, l'audience, c'est de l'argent. Et donc, je me retrouve avec un site qui commence à devenir un truc de dingue en nombre de visiteurs uniques par mois. C'est énorme. C'est pas un rond. C'est pas un sou. Mais là, les mecs me disent, votre truc vaut une fortune. Je dis, ah bon ? Je dis, mais regardez comme il est gros. Ah bon ? Alors, faut mettre de l'argent dedans. Ben ouais. Et donc, c'est comme ça que j'ai levé mes premiers millions d'euros. Donc, j'avais finalement créé une espèce de machine à fabriquer de l'or. Parce que la bulle Internet, à cette époque-là, considérait que le trafic, c'était de l'or.
Et qui est-ce qui t'approche à ce moment-là, du coup ?
Alors là, j'ai un autre coup de bol. Je vais vous saouler avec ces histoires. Mais quand j'étais au bout de ma vie sur le B2B, j'avais plus de sous. Ouais. J'avais mis une annonce sur un site Minitel à l'époque, puisque l'Internet n'était pas encore lancé, de Business Angel. J'avais dit, voilà, j'ai une boîte qui fait des logiciels. Je cherche un peu de sous pour me rentrer dans mon capital. 3 ans avant. J'ai complètement oublié ce truc-là. Je crée e-France, ça commence à décoller, j'ai pas un rond, bon, et là je reçois un coup de fil d'un mec qui me dit, voilà, je suis business angel, j'ai vu une annonce sur un site Minitel, il paraît que vous cherchez des investisseurs. Ah bon ? Mais où ? Et là il me ressort le truc, et il me dit, vous avez un projet internet ? Je dis, oui, eh ben je viens vous voir, j'investis. Là je me dis, qu'est-ce que je vais lui raconter, quoi ? Je vais pas faire un site d'hébergement de site perso, il dit que je fasse. Et ce mec est arrivé, Thierry, mon associé. Et je lui ai raconté ce que j'étais en train de faire et où je voulais aller. Et il m'a dit, bah, j'investis, je mets 1 million dans ta boîte, je prends la moitié. Et il est rentré chez moi.
Mais quand on t'entend, on a l'impression que t'étais toujours un peu bleu, tu vois, un peu, pas complètement, qu'est-ce que je vais lui raconter, etc. Mais quand tu les rencontres vraiment, tu t'es prêt à chaque fois et tu bagarres ou pourquoi ils croient en toi?
Parce que ce que je lui raconte, c'est vrai. Je lui dis, voilà, vous savez quoi, le trafic, ça va exploser, le trafic, ça va être transformé en publicité, la publicité, ça vaudra très cher, et un jour, les gens, ils regarderont la télé, et ils regarderont la pub sur Internet et plus sur la télé. Je le sais. J'ai aucune idée de combien de temps ça va prendre, de comment ça va être fait, de la techno qu'il va falloir, mais je sais que le chemin, c'est ça.
Et je pousse un peu là-dessus, mais comment pendant toutes ces années de tes rendez-vous en Bourgogne, dans le fond des boîtes de nuit, dans les journaux de PQR que je connais un peu, que j'ai parcouru aussi à travers toute la France, dans ces investisseurs, comment et pourquoi ils bossent avec Marc Simoncini ? Qu'est-ce que c'est ? Enfin, t'es un bon commercial ?
Parce que alors les clients c'est un peu compliqué, mais en tout cas, là, je crois que la vraie question c'est pourquoi les mecs qui sont aussi bons ont accepté de travailler avec moi. Parce que j'ai quand même créé des équipes autour de moi qui étaient des gens extraordinaires. Qu'est-ce qu'ils viennent faire avec moi, ces gens-là, si j'ai, bon. Et en réalité, c'est ce que je raconte, c'est que si tu veux être entrepreneur, t'as une qualité, enfin, t'en as plusieurs, mais il y en a deux, en tout cas, qui sont essentielles. La première, c'est la résilience, parce qu'il va falloir que tu restes debout pendant très longtemps et que tout le monde veut te faire tomber. La deuxième, c'est qu'il faut une forte capacité d'attraction. Parce que si tu montes une boîte et que tu n'es pas capable d'attirer à toi des investisseurs, des clients, des talents, t'es un mec qui est tout seul dans ton bureau et démerde-toi tout seul. Donc, un entrepreneur, il faut qu'il ait une grosse capacité d'attraction.
On le dit pas assez, ça. Alors, je suis tout à fait d'accord.
Vital.
La résilience, je suis tout à fait d'accord. Ça me semble presque évident. Je crois qu'on en parle très souvent sur ce podcast et on l'a déjà vraiment bien évoqué avec toi. Mais cette capacité d'attraction, et c'est compliqué parce que, je veux dire, quand t'es tout seul au début ou quand t'es à deux même quand t'es tout seul, avant d'être à deux d'ailleurs, généralement, t'es tout seul. De toute façon, tu vas trouver un associé. Il faut qu'il y ait cette symbiose qui se crée et faut quand même qu'il y en ait un qui attire l'autre ou ça peut être mutuel.
Si je peux me permettre, tu dois même démarrer un peu avant. C'est que le premier mec que tu dois convaincre de bosser avec toi, c'est toi-même. Parce que t'as
tout à
forcément
fait
une partie de toi qui dit j'ai envie d'y aller, et puis une heure après t'as la autre partie de toi qui dit fais pas ça, quoi. T'es pas capable, t'es capable, il faut le faire, il faut pas le faire, et le moment donné il faut que t'arrives à te convaincre toi-même que tu veux y aller. Donc il faut déjà une capacité d'attention envers soi-même.
C'est une très bonne analyse.
Alors qu'à l'époque où tu démarres, en général tu te connais pas parce que t'es jeune et que t'as pas fait tout ce travail, tu sais pas qui t'es vraiment. Est-ce que t'es le mec qui a envie ou est-ce que t'es le mec qui a peur? T'en sais rien.
Donc, comment t'arrives à te convaincre? Je nous pose la question, mais comment?
C'est un travail de maturation psychologique. C'est qu'à un moment donné, il faut que tu saches si t'es plutôt un mec de l'action ou plutôt un mec de pas l'action, quoi. En fait, moi, je résume ça en disant qu'il y a des et des mais. T'as des mecs, tu leur parles d'un projet. Tiens, on va faire un nouveau vélo qui va faire un truc de dingue, machin. T'as deux réactions. T'as le mec qui dit, oh ouais, mais si on fait ça, ça va être cher, mais ça va être compliqué, mais qu'on va pas être sûr de le vendre, mais pour rien. Et puis t'as le mec qui dit, ah ouais, t'as raison, c'est génial, mais et si on rajoutait ça? Et si on faisait ça? Et si... Donc t'as les et les mais. Et à l'intérieur de toi, il faut que tu saches si t'es un mec et ou un mec mais.
Mais tu vois, là, j'utilise le mais, je crois être plutôt un et, mais tu te... tu te choisis ça à un moment. Tu choisis ton. Il y a un moment où tu choisis d'être tu peux changer, t'as plusieurs personnes en toi, tu peux choisir d'être une telle personne, ça change peut-être tous les 5 ans, tout le temps d'ailleurs, mais tu te choisis.
Bah alors le choix c'est un abysse, hein. C'est que quand tu vas choisir, le problème c'est que tu vas renoncer à la partie de l'autre côté. Donc il faut qu'à un moment donné tu choisisses et que tu y ailles ou que tu y ailles pas. Mais moi j'avais pas le choix. Le drame dans la vie, c'est d'avoir le choix.
Bien sûr que t'as le choix.
Non, j'ai trouvé pas le choix. Boulot, non, j'étais à Dijon, j'avais pas fait d'études, j'avais le bac par miracle. Si, j'aurais pu retourner dans les travaux publics. Donc moi, la chance que j'avais, c'est que j'avais pas le choix. Quand je te dis, j'avais plus rien à faire, j'ai créé une boîte. Bah oui, parce que j'avais pas le choix. Donc finalement, le plus beau cadeau que t'as au départ, c'est pas avoir le choix. Parce que si tu laisses à tes gamins de quoi avoir le choix, mais tu les mets dans des situations horribles. Parce que là, ils vont se demander si c'est des, si c'est des mais, s'il faut qu'ils fassent ça, s'il faut ça. Puis ils peuvent aussi ne rien faire. Donc surtout, faut partir avec rien.
Mais tu sais que c'est ce qui me fascine dans ce podcast, parce que je les ai pas tous sortis, mais je dois être à 75 épisodes enregistrés. Je vais avoir un type comme Alex Pro, qui est le fils de Baudouin Pro, qui a monté Conto. Son père était quand même le patron de la BNP. Lui a des études de ouf.
Ouais, ouais.
Il est passé chez McKinsey. Il est passé. Et en fait, tu dis, attends, ces mecs-là. C'est normal qu'ils réussissent, tu vois. Enfin, quelque part, c'est normal. Et en fait, quand tu creuses un peu, toute une partie, à un moment, je me plaignais un peu d'avoir trop d'HEC dans ce podcast, toute une partie de ces gens-là, tu comprends qu'il y a quand même un abysse à un moment où, en fait, il faut qu'ils fassent un choix, après avoir fait HEC, et puis l'INSEAD, et puis machin, de se dire, même Fabrice Grindra,
qu'est-ce
dire,
que attends, je vais faire?
Je vais aller bouffer de la merde.
Ouais.
Et alors que je pourrais avoir un super boulot, super bien payé, tous mes potes vont me regarder en se disant, machin. Mais naturellement, tu dis c'est normal qu'ils réussissent, et toi tu me dis c'est plus facile quand on est dans ma position.
C'est beaucoup plus facile de pas avoir le choix.
Mais tout le monde se donne le choix. Je suis pas d'accord avec toi. Je veux dire, il y a des gens qui sont dans ta position et qui vont dire j'ai pas le choix et du coup je vais bosser au McDo.
Bah parce que c'est l'autre partie qui a gagné.
Ouais.
C'est l'autre partie qui a gagné. Mais en tout cas, ils ont été obligés de se poser la question et de faire très vite un choix. Parce qu'il faut qu'ils choisissent la start-up ou McDo très vite. Si t'as des années à te torturer sur ça, c'est compliqué. Moi je vois plein de gens qui me disent voilà, j'ai fait HEC, j'ai pas encore d'idée, je voudrais entreprendre mais je sais pas trop s'il faut que je fasse ça maintenant. Bah ouais, ils vont se poser des questions pendant 10 ans. Bon bah moi j'ai pas eu le choix, bon, c'est plus simple.
Ok, revenons rapidement sur e-France. Donc l'idée en gros, hein, c'est pour recontextualiser. Moi, j'arrive sur e-France, je me crée un compte, je peux me créer un site internet, entre guillemets.
C'est ça, à l'époque.
C'est gratuit.
C'est gratuit.
Et toi, tu prélèves de
l'argent,
tu
mets de la pub. Je mets de la pub dessus. Et voilà. Pourquoi je fais ça?
Tu me reverses rien, moi.
Non. Mais pourquoi je fais ça? Parce que je me dis, début 97, un des trucs qui fera qu'Internet rapportera de l'argent un jour au serveur, au site, il y a la pub et il y a les abonnements. Un jour, les gens s'abonneront avec une carte bleue sur des sites internet et ils paieront. Moi, c'est là-dedans que je veux aller. Parce que la pub... Et je me dis que le jour où il y aura la techno pour faire payer les gens et qu'on aura trouvé des sujets auxquels les gens s'abonnent, il faudra faire de la pub pour faire connaître ces sites. Or, j'avais été traumatisé pendant mes années Minitel puisque n'ayant pas d'argent, je n'ai jamais pu lancer de 36-15 pour moi parce que j'avais pas de quoi couvrir les panneaux 4x3 avec des pubs pour Hula. Donc, je me suis dit, s'il y a un jour un truc qui marche sur Internet, de toute façon, tu pourras pas en faire la pub parce que tu n'as pas d'argent. Donc, avant d'avoir cette idée, crée ton panneau publicitaire. Et donc, mon idée d'e-France, c'était quoi? C'était de dire, je vais me créer un énorme site qui va faire des milliers et des milliers de bannières chaque minute. Et ces bannières, elles sont à moi. Donc, j'ai créé mon réseau de 4x3. Et le jour où j'aurai une idée de site payant, il suffira que je me serve de ces bannières pour les envoyer sur mes sites à moi. Donc, j'ai commencé à vouloir créer mon média. Et c'est ça que j'ai raconté à Patrick Lelay, qui était président de TF1 à l'époque, qui m'a regardé en c'est qui ce dingue, quoi. Mais en fait, c'était ça, e-France. C'était une machine qui créait chaque jour plus d'audience, et j'avais un inventaire publicitaire qui m'appartenait énorme.
T'es quand même sur de la plateforme de blog avant le blog, en fait.
Oui, bah, c'était à l'époque la techno, c'était pas les blogs, c'était les sites perso. Après, c'est devenu les blogs, mais c'est pareil.
Et, techniquement, donc tu racontes, tu shift, mais c'est quand même compliqué à l'époque de créer ça.
Très compliqué, très compliqué.
Il faut une armée d'ingénieurs, vous êtes combien?
Non, c'est pas tellement en soft parce que j'avais toujours ce François qui développait tout, mais donc on avait une belle équipe de développeurs, hein, mais surtout c'était compliqué en serveur, quoi. C'est que j'en doublais le trafic tous les 3 semaines, donc on achetait les serveurs, on les installait, les bases de données à l'époque, il fallait mettre des licences Oracle à 300 000 euros, ça avançait pas, il fallait mettre des serveurs, des machins, des... Après, le trafic internet devenait dingue. Il fallait mettre des load balancers, des machins, des trucs, des firewalls. C'est parti. Bon, un peu surtout sur Mythique. Hein. Et donc, c'était là. On était tout le temps en rupture, quoi. Je veux dire, surtout sur Mythique. En France, on a galéré, mais alors Mythique, alors, on a pris plein la gueule, quoi. Dès qu'il y avait trop de monde, ça tombait, ça pétait, c'était trop gros. Il fallait racheter des serveurs. Il n'y en avait plus assez. J'ai construit deux Formule 1. Une gratuite et une payante. Mais j'ai construit la Formule 1 pendant le Grand Prix.
Ouais.
C'est-à-dire que t'es assis dans la bagnole, il faut rajouter des roues, il faut mettre de l'essence, et le mec il court à côté. Il n'y a pas une seconde où la voiture peut s'arrêter. Tu deviens dingue. Alors aujourd'hui, les mecs, ils sont capables d'acheter 700 000 serveurs d'un coup. Bon, voilà, tu vois, ils sont dans le cloud. Nous, non, le cloud, c'était le nôtre. Et donc, on louait des baies et des baies et des baies.
Et ça, c'est allé très vite parce que... sur e-France, tu parles de Patrick Lelay, mais en gros, en quelques mois, finalement, une fois que tu shiftes sur e-France, t'es un peu accueilli partout,
dingue,
tout le monde.
Dingue.
Et toi, tu débarques, tu dis
quoi? Je dis, qu'est-ce que c'est quoi? Je me souviens très bien, j'étais reçu par tous les grands patrons de France qui voulaient absolument me voir.
T'es plus un jeuneau, quoi. T'as plus, non, t'as fait 25 piges, quoi.
Ouais, je suis comme un gamin, quoi. J'arrive de province, j'ai une boîte de 30 salariés, je fais 1 million de chiffre d'affaires, je sais maintenant la différence entre une SA et une SARL, mais enfin pas beaucoup plus. Et là, je reçois des coups de fil en disant Monsieur Patrick Lelay, à l'époque c'était le plus gros média d'Europe. Monsieur Lelay veut vous voir. Et je dis quand est-ce qu'il peut. Et la secrétaire me dit quand vous voulez. C'est le truc, quoi.
J'arrive.
Et donc j'ai rencontré des gens formidables à cette époque qui partaient tous dans l'internet en disant c'est là qu'il faut aller. Et donc j'ai eu la chance de croiser des gens extraordinaires alors que j'avais aucune chance dans ma vie de pouvoir croiser ces gens-là, quoi. Mais voilà. Et du coup ça m'a créé un tissu, non pas de relation parce que c'était quand même assez distendu, mais ils se rappellent de moi et ils savent ce que j'ai fait.
Et c'est comme ça que t'as créé une forme d'attirance pour e-France que t'as fini par revendre. Du coup, pour aller un peu vite et puis
c'est surtout que Jean-Marie Messier voulait faire Vis-à-vis, que Vis-à-vis c'était un portail avec plein d'outils et que moi j'avais déjà développé plein d'outils dont Vis-à-vis avait besoin, donc ça leur faisait gagner du temps. Puis finalement ils s'en sont pas servis, mais voilà.
Jean-Marie Messier, je recontextualise pour les plus jeunes, donc début des années 2000, c'est vraiment il a sa marionnette au guignol, J6M, c'est le patron iconique,
décrié, le seul patron français connu aux États-Unis.
Ouais, c'est ça. Qui rachète Universal pour Vivendi, donc Vivendi, qui est voilà, et qui a une chute d'ailleurs phénoménale.
Il avait créé un truc. Il y avait Canal Plus,
visionnaire.
Universal, c'était un truc.
SFR.
Le truc c'était dingue, quoi. Alors, quand un mec comme ça vous appelle et vous dit je vais racheter votre site, c'est quand même un truc dans la vie de quelqu'un, quand même. Mais on est toujours copains.
Et tu l'as fait bosser après, d'ailleurs.
Oui, après, c'est devenu mon banquier d'affaires. Et c'est grâce à lui que j'ai vendu Mythique à Barry Diller.
Donc, du coup, il te rachète e-France.
Ouais.
Le drame un peu que tu racontes, c'est qu'il y a une partie en cash, une partie en papier, c'est ça? Donc, en action, Vivendi.
En action Vivendi, ouais.
Ouais. Donc, ce que je vois pas, si je puis me permettre, le seul moment où je comprends pas, c'est que entre le moment où tu revends e-France et quelques années plus tard sur Mythique, tu refais une banqueroute quasiment. Hein. Tu reviens à zéro.
Non, j'ai même plus. Parce que je crois que j'ai en dette ce que je croyais avoir en argent. Parce que
parce que t'as gagné presque 45 millions. Non,
ouais, bon, j'ai gagné 45 millions. Là-dessus, j'ai payé les impôts énormes. Donc tout le cash que m'a donné Vivendi, c'est parti aux impôts. Et je me suis retrouvé avec un gros paquet d'actions.
Ah oui, c'est le problème des actions.
Bon, donc j'avais des actions à 90 euros. Et le banquier m'avait dit, si vous avez des actions à 90 euros, vous pouvez emprunter de l'argent pour la même somme en mettant en face les actions à 90 euros en garantie. Donc, comme j'avais plus d'argent, j'ai emprunté de l'argent et j'ai donné mes actions en garantie.
Donc, du coup, quand l'action baisse, les impôts, ils ne rendent pas
Les actions, ils ne rendent jamais les impôts. Et l'action, elle est tombée à 8 euros. Et donc,
mais t'as combien, tu dis?
Quand j'ai touché, c'était à 90, elle est arrivée à 8. Donc, grosso modo, j'avais perdu les 7 huitièmes de ce que j'avais. Et donc, j'avais 6 huitièmes de dette. Huitièmes de dette de ma vie, je ne pouvais jamais les retrouver. Donc, je me suis retrouvé, non pas ruiné, mais en banqueroute. En plus, entre-temps, j'ai eu un contrôle fiscal qui commençait à m'emmerder sur qui m'explique que j'avais pas assez payé d'impôts, qui commençait à essayer de venir chercher plus d'impôts. Et donc là, je me suis dit, je suis mort.
Et en plus, t'es sous le feu des projecteurs. C'est-à-dire que là, t'es devenu une coqueluche quand même un peu d'internet.
Ouais, c'était un peu calmé parce que entre le moment où j'ai vendu et le moment où tout ça s'est écroulé, il s'est passé quelques années où on parlait plus vraiment de moi.
Tout le monde est persuadé que t'es pété de thunes.
On pense que je suis pété de thunes alors que je suis pété de dettes. Mais pour m'en sortir, j'avais pas le choix. Et il a bien fallu que je me mette à rebosser, à réfléchir.
T'avais pas le droit de les vendre, ces actions?
C'est-à-dire que plus personne n'en voulait.
Non, mais avant quand elles étaient au plus haut.
Non, mais j'ai fait un truc dingue. C'est que, évidemment, quand j'ai touché les actions Vivendi, j'avais des conseillers qui m'ont dit hop, prends un contrat auprès d'une banque qui te garantit que tes actions Vivendi, même si ça s'écroule, ils te les rachèteront toujours à 80 euros. Donc, je pouvais acheter un contrat d'assurance qui garantissait que mon argent... ça existe. Alors, évidemment, si ça montait, ils gardaient une partie de la hausse, mais si ça baissait, ils me couvraient sur la baisse. Mais le contrat, je ne l'ai jamais signé.
Tu voulais pas ou tu t'es oublié?
J'ai oublié. Ouais. Et inconsciemment, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que maintenant, j'ai compris ce que j'ai fait. C'est que cet argent, je pensais qu'il était un peu immérité parce que j'avais eu beaucoup de chance avec la bulle Internet et que machin. Et donc, j'ai jeté mon argent dans une poubelle. Je l'ai jeté. Et quand je me suis retrouvé avec l'argent dans la poubelle, je n'avais plus rien. Et là, je me suis dit, pour m'en sortir, j'ai qu'une solution, c'est de monter une startup qui marche. Et ça m'a permis de faire Mythique. Si je n'avais pas tout perdu, je n'aurais jamais fait Mythique. Donc, finalement, tout ça, ça m'a aidé à faire Mythique. Donc, la meilleure chose qui me soit arrivée, c'est d'avoir tout perdu.
Mais c'est quand même fou, parce que je veux dire, tu mets 15 ans à faire fortune que tu perds quasi immédiatement, enfin j'exagère un peu. Faire fortune une fois, enfin de plus en plus, on lit quand même beaucoup de littérature où les mecs te disent, dans tous les entrepreneurs, on croit tous qu'on va y arriver, et en fait il y en a vraiment aucun qui va y arriver, c'est pas vrai. Enfin, tu vois, ça. Et toi t'as quand même réussi une deuxième fois.
Ouais, alors ça c'est très rare. Mais j'ai réussi la première fois parce que j'avais pas le choix et la deuxième fois parce que j'avais pas le choix. Donc, ça m'a un peu aidé.
Et on reviendra peut-être là-dessus tout à l'heure, mais raconte-nous le tout début de Mythique, du coup.
Le début de Mythique, je dis à ma femme, il faut que je fasse un truc, là c'est pas possible. Donc j'avais cette idée de dating un peu en tête parce que j'avais des copains qui avaient divorcé, qui trouvaient pas de fille. Et je me suis dit, tiens, tu me rappelles ton idée que t'avais sur e-France, qu'un jour les gens paieraient par abonnement, mais finalement le business model du dating, c'est un modèle business parfait. Donc j'ai creusé le business model du dating et j'ai dit, mais tu te rends compte, tu vas vendre un abonnement à 30 euros par mois pour vendre un contenu que tu n'as pas acheté.
Sachant que là, on est vraiment dans le tout début, des moments où les gens sortent leur carte bleue sur Internet.
Voilà, c'est ça. Mais ça commence à exister.
On est en quelle année, 2005, 2004?
On est en 2001, déjà.
Ah, oui.
Mais ça commence à exister. Et je me dis, c'est un business model parfait, le dating, puisque ce sont les gens qui amènent le contenu, eux-mêmes, qui vont l'acheter. Et donc, tu n'as aucun frais de production.
Tu es au fond de la bulle, là, quand même.
Donc là, je me dis...
Enfin, l'explosion de la bulle.
Là, on est en plein cœur de la bulle. Tout le marché est vitrifié. Mais voilà, c'est ça mon intuition. Et donc, je commence à essayer de trouver un site de dating mieux que ce qui existe à l'époque. Et je travaille sur mon balcon avec un crayon, un papier. Et j'écris tout ce qu'il faudrait pour qu'un site devienne formidable. Et puis, je le lance. Et le truc décolle, mais alors, une vitesse de dingue. Et là, je sais que j'ai touché un gros, gros truc, quoi. Mais alors là, les emmerdes commencent. Là, ça part très vite. Tu sais que la Formule 1, elle démarre tout de suite. J'étais encore en short avec les tongs sur le côté en me demandant si j'allais la faire bleue ou rouge et elle part à 200 km/h et je commence à courir derrière. Quoi. Et pendant 10 ans, j'ai couru derrière.
C'est la difficulté. Hein. J'en parle sur un autre épisode avec, je ne sais pas si tu connais Bergamote, qui est un site marchand qui vend des fleurs et des plantes désormais. J'en parle avec son fondateur, Romain. Et en fait, c'est compliqué de sur les projets internet. Et dès que ça marche, quand même, t'as jamais tout prévu, quoi.
Non, jamais.
Ça pète dans tous les sens. C'est normal.
Ouais.
Le problème, c'est que je reviens sur ton côté B2B. Et là, je te partage une quelque chose que je peux vivre moi sur mon côté B2B, c'est que quand tu vends un truc à un client, déjà, il veut pas te le payer trop cher. Puis quand ça pète dans tous les sens, c'est pas normal.
Ouais,
tu t'en prends plein la gueule.
Évidemment.
Et comment est-ce qu'on peut... Non, tu n'auras pas la solution à ma question. Comment est-ce qu'on peut dire à tout le monde que, en fait, quand le truc marche bien et qu'il est super bien, c'est normal que les bugs, les erreurs, un minimum. Tu vois, nous, on n'en fait pas beaucoup. On a une grosse expertise. Mais...
C'est que c'est des objets très complexes, quoi. C'est des objets très complexes. C'est comme si tu disais, je fabrique une montre, il faut qu'elle donne l'heure, quoi. Putain, il y a plein d'erreurs à faire pour que l'heure soit pas juste, que la montre s'arrête. Enfin, tu vois, c'est complexe, quoi.
Puis les montres sont toutes les mêmes, en plus. Alors, c'est quand même au bout d'un moment.
Alors qu'un site internet, c'est une industrie de prototypes.
Ouais.
À part l'e-commerce où, tu prends un outil et machin, sinon, c'est du prototype à chaque fois. Nous, ce qu'on a inventé, ça n'existait pas, quoi. Ni le business model, ni le business plan, ni la techno. Donc, on invente, c'est des prototypes.
Et donc, toi, tu lances, si je me souviens bien, c'est Cosmo, c'est Vogue, qu'est-ce qui parle de... Il y a eu un article, non, qui fait... Ah non, pardon, je confonds deux choses.
Non, c'est pas
comment tu... Non, ça, c'est Bergamote, justement. Mais comment tu... Ça part tout de suite. Hein.
Alors ça part tout de suite.
Pourquoi, bah, comment?
Il faut quand même un peu de sous. Là, c'est pareil. Il me restait 700 000 euros après que tout ait explosé parce qu'un copain m'a aidé à passer la vague et j'avais mis un peu, il m'a mis un peu de sous dans Mythique. Et donc, j'ai dit à mon équipe, voilà, les gars, moi, j'ai 700 000 euros. On va garder 100 000 euros pour acheter de la pub le jour où le site est fini. Ouais. Donc, on a 600 000 euros à dépenser. Le jour où on n'a plus un rond, on ouvre le site. Et puis, tant pis s'il n'y a pas les fonctionnalités qu'on a imaginées ou démerdées. Donc, j'ai refait la même. On a tac, on a travaillé. On avait un site qui marchait. On a gardé ce qui truc. Et là, j'ai une idée plutôt pas à la con, enfin celle-là, elle a marché. J'ai dit, tu sais quoi, il va falloir qu'il y ait des gens qui viennent sur le site. Sinon, le site, il ne décollera jamais. Surtout un site communautaire, il faut bien qu'il y ait du monde. Et donc, j'ai eu une idée, j'ai dit, je vais appeler une télé. Et je vais leur dire, voilà, tiens, Simon Signy lance un nouveau site. Est-ce que vous voulez filmer le lancement? Et je crois que c'est France 2 à l'époque, m'a dit, ah ben c'est génial, on vous envoie un reporter. Et me voilà.
En direct.
En direct, au journal de 20h. Enfin, c'est enregistré, hein. Avec ma petite équipe. 5, 4, 3, 2, 1, paf, on appuie sur Reiter, puf, on ouvre le site. Et ça passe à la télé, quoi. Et donc, évidemment, 2 heures après, on avait les premiers clients qui arrivaient, les premiers mecs qui mettaient leurs photos, et le site a démarré.
Sachant que le problème du dating, c'est quand même que généralement, il n'y a jamais de femmes sur les sites de dating.
Ça, c'était avant, ouais.
Comment t'as fait?
Eh ben, je me suis mis dans la peau d'une femme. Parce que je me suis dit, si t'es une femme, alors tu vas imaginer que t'es une jeune fille de 30 ans qui bosse dans la pub, qui a un boulot, qui est jolie, qu'est-ce que tu vas foutre sur un site de rencontre? La preuve, c'est qu'il n'y en avait pas. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les filles viennent sur un site de rencontre? Et donc, j'ai trouvé 4 ou 5 règles d'or, donc, qui étaient l'ADN de Mythique, en disant, voilà, si on fait ça et si on déroge jamais à cet ADN, alors on a une chance de faire venir les filles. Et c'est ce qui s'est passé.
C'était quoi, en gros, ces règles d'or?
Bah, déjà, t'avais des sites gratuits de rencontres. Donc, je me suis dit, comment je fais pour faire venir une jolie fille sur un site payant? Bah, j'ai dit, d'abord, faut pas qu'elle paye. Faut que ce soit les garçons qui payent. Donc, j'ai repris les recettes des boîtes de nuit de l'époque. Ensuite, je me suis dit, faut qu'il y ait des videurs. Donc, il faut que ce soit ultra sécurisé parce que la fille, faut pas qu'elle se fasse emmerder. Donc, Mythique, on a tout de suite mis une énorme équipe de videurs et que le premier dérapage, on dégageait les mecs. Et le troisième truc que j'ai imaginé, c'est donner une image premium au site en le rendant très cher. Pourquoi? Parce que si je t'invite à une soirée demain dans une boîte de nuit à Orly, gratuite, ou si je te dis, je t'invite au bain-douche, ou pas n'importe quelle boîte, je sais pas comment ça s'appelle, les boîtes à Paris, mais enfin bon, une boîte qui vaut 150 euros là, le verre,
le bah,
tu vas avoir envie d'aller à la boîte chère, donc, parce que ça reflète l'image que t'as de toi-même. Donc plus le site va être cher, plus les gens vont penser qu'ils méritent d'aller là. Et donc j'ai fait un site très cher. Tout le monde m'a dit, mais t'es complètement taré, il y a des sites gratuits. Mais non, au contraire, il fallait qu'il soit cher le site pour que les gens l'achètent. Donc j'ai fait un site cher, gratuit pour les femmes, très sécurisé. J'ai fait une boîte de nuit un peu branchée. Et puis, il fallait pas que le nom soit plouc. Il fallait que l'esprit soit sympa, que le ton soit un truc. Et en fait, j'ai dit, si je suis une jolie fille de 30 ans, qui a un boulot, pourquoi je vais sur un site en grande? Ben, la réponse était pour m'amuser. Et donc, j'ai fait un site ludique. Et je promettais pas aux filles d'aller tomber amoureuses et de faire, non, je disais, allez vous amuser, quoi, c'est marrant. Et les filles, elles sont arrivées, elles se sont marrées. Et du coup, les garçons sont arrivés, les filles sont restées, les garçons sont restés. Voilà.
La modération, c'est vraiment une très bonne idée, hein. C'était une armée de modérateurs.
Une armée, ouais. Une armée. On avait, je crois qu'à la fin, on avait 110 personnes qui regardaient tout. On avait, je crois qu'on avait 60 messages secondes. Donc, on lisait pas les messages, mais on avait des robots qui analysaient les mots, qui regardaient les patterns.
Il y avait des systèmes. Oui, dès que t'avais un pull qui sortait ou un machin.
Un euro, le sigle euro. Ouais. Pourquoi tu vas mettre un sigle euro quand tu parles à une fille? Parce qu'on avait terrorisé de la prostitution. Enfin, tu peux pas savoir ce que c'est. On envoyait des recommandés aux prostituées qui venaient. Enfin, wow, c'était un truc. Voilà. Mais c'était très, très, on n'a jamais dérogé là-dessus. La sécurité, c'était très, très important. Et j'ai jamais vraiment eu d'emmerde d'ailleurs. J'ai eu beaucoup de soucis, mais jamais eu d'emmerde.
Donc tu lances, ça marche en termes de trafic assez immédiatement.
Ouais, et, en termes de tout. Hein.
Mais c'est assez cash flow positif ça, parce que les gens, bah,
ils payent un mois d'avance. Pour un contenu que t'as pas acheté, ouais. Plutôt pas mal comme business. Quoi.
Ouais.
Donc c'est un truc de dingue.
Mais t'as quand même besoin de lever au bout d'un moment?
Bah alors au départ j'ai besoin de lever parce que j'ai pas envie d'être seul. Et puis que j'ai plus un rond, donc il faut bien qu'on assure le petit lancement de départ. Et puis j'aime pas être seul, donc j'ai partagé avec des copains d'e-France qui étaient dans ma aventure. Je leur ai dit voilà, je recrée une boîte qui vient, donc la plupart sont revenus. J'avais un noyau d'amis.
J'ai eu Catherine Barba notamment qui était ici. Elle est peut-être pas venue dans Mythique. Non, elle était.
Elle est pas venue. Et
il y avait qui du coup?
Oh bah il y avait des copains à moi. Jean-David Blanc par exemple. Ouais, je crois qu'il était dans e-France et dans Mythique. Et puis un jour j'ai dit là maintenant il faut lever beaucoup parce qu'il faut acheter du serveur, il faut ouvrir à l'international, il faut faut un peu de pognon quand même. Et donc là, j'ai fait un round de financement, mais là, c'était l'explosion de la bulle, les fonds étaient complètement disparus. Et j'ai un fonds français qui est arrivé, qui m'a dit « Ah, c'est génial votre truc, on investit ». Je crois qu'à l'époque, je levais 10 ou 15 millions. Et il y a un fonds américain.
Énorme hein, pour les.
Oui,
pour
c'était les, énorme, ouais. Il y a un fonds américain qui est arrivé de New York en jet en disant « On veut investir chez vous ». Donc pendant un mois, je me suis posé la question de savoir si je travaillais avec des Français et des Américains. Puis finalement, j'ai travaillé avec Benoît Grossman qui à l'époque était chez Allianz. Et ID Invest. Et donc voilà, on a fait rentrer Benoît à la place des Américains et c'est parti.
Et là, t'as fait péter Mythique sur des pays assez exotiques.
Alors là, on était incroyable en France. Il y avait d'autres sites, mais enfin, je crois que le deuxième site derrière Mythique, il devait être 6 ou 10 fois plus petit que nous. Donc bon, on avait ratissé le marché français. Et bon, voilà. Après, c'est compliqué. Hein. Donc, on s'est dit on va à l'international. Donc on a quelques pays où on l'a fait tout seul. L'Espagne, parce que ce qui marche en France marche en Espagne, ce que j'ai appris. L'Italie. Mais alors quand il s'agissait de l'Angleterre, l'Allemagne, la Suède, on s'est dit là, oh là là, faut pas y aller. Donc faut les racheter. Et pour les racheter, il faut beaucoup d'argent. Et donc, pour beaucoup d'argent, il faut aller en bourse ou trouver un fonds qui met 100 millions de dollars. Je dis, oh, alors moi, un fonds qui met 100 millions, il va me casser les pieds. Donc, on va aller en bourse. Et alors là, matin...
C'est pas casse-pieds, la bourse. Hein.
Le jour où je suis allé pisser et je suis revenu en disant, les gars, j'ai une idée, on va en bourse. Alors là, celle-là... Ben bon, là, tout le monde était consterné, mais enfin, j'étais le boss, donc... Il a bien fallu qu'ils me suivent. Et là, on a bossé comme des chiens pendant 6 ou 8 mois pour préparer l'introduction en bourse. Imagine une start-up qui fait de la rencontre Mythique en bourse sur Eurolist parce que ça valait déjà 400 millions d'euros, Mythique. Donc, on était classé dans la catégorie des grosses petites boîtes en France. Donc là, on est vraiment passé dans le truc et on a levé 100 millions de dollars en bourse pour acheter les concurrents européens. Et donc, l'intro en bourse est passée, on a touché nos 100 millions de dollars.
Je peux faire une toute petite pause. Aujourd'hui, toi qui es énormément dans l'investissement, t'as mis dans beaucoup de boîtes, la bourse, c'est quand même un truc où, je veux dire, à part le Nasdaq, si peut-être tu t'appelles Criteo, c'est quand même un truc où c'est plus du tout une case où t'as envie de passer.
Ah bah non, parce que les startups sont très peu adaptées au mode de fonctionnement des marchés financiers, déjà par le simple fait qu'elles savent pas où elles vont. Donc c'est très compliqué pour la bourse d'investir dans des boîtes qui peuvent pas précisément dire où elles vont. Mais bon, voilà, à l'époque, quand même, Mythique, c'était phénoménal, quoi. Donc les mecs ont dit, celle-là, on va faire une exception et on va la mettre en bourse.
Et tu veux bien nous raconter, du coup, tu savais pas où t'allais.
Donc tout mon roadshow, c'est d'expliquer que je lève 100 millions de dollars pour acheter mes concurrents français, européens. On lève les 100 millions de dollars et là, on a le pognon. Et j'ai reçu un coup de fil d'un mec qui me dit, il y a un site en Chine extraordinaire qui est en train d'exploser sur le mobile. Il faut aller sur le mobile. On le savait qu'il fallait aller sur le mobile à l'époque. À l'époque, il y a pas de mobile. Donc on s'est dit, ok, alors je vais voir les Chinois. Et je retourne de Chine et on rachète un site à 25 millions d'euros en Chine. On clôture le cours, on suspend la cotation de Mythique parce qu'on fait une annonce. Et là, toute la bourse se dit, ça y est, il a acheté le site en Allemagne, en Angleterre. Et je leur dis, j'ai acheté un site en Chine. Et là, alors là, et consternation. Je me fais défoncer pendant 6 mois à chaque fois que je fais des roadshows. Là, je me fais élire le most hated European CEO pour la première fois.
C'est arrivé encore après ?
Ah oui. Et donc, les mecs me disent, vous êtes complètement cons, vous avez levé de l'argent pour acheter des boîtes en Europe. Je dis, ouais, mais là, sauf que j'ai une opportunité en Chine, je pouvais pas la laisser passer. Et puis la Chine, de toute façon, c'est où on y va et on se plante, mais au moins on aura essayé. Ou alors, si on n'y va pas, vous allez m'engueuler parce que je suis pas allé. Donc, on a essayé, voilà. Bon, ok.
Ça a marché, la Chine ?
Au début, après, non. Et j'ai compris. Bon, deuxième acquisition, tac, 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 on ferme le site, on annonce une deuxième acquisition quelques mois plus tard. Ça, le mec me dit, ça y est, il a acheté l'Allemagne, il a acheté la Chine. Là, j'arrive, hop, ça y est, on a acheté le Brésil.
Bravo.
Et là, depuis ce jour-là, là, ça a été fini. Alors, c'était une très belle acquisition,
oui.
Qui m'a beaucoup servi quand j'ai revendu un match 10 ans après. Voilà, et puis après, on a acheté les Allemands, les Anglais. Voilà, on a fait notre programme, mais on est un peu dans le désordre. Voilà. Et donc, on a jamais pu reproduire le succès de Mythique en dehors de l'Espagne et de l'Italie. Le reste, à chaque fois qu'on a essayé de lancer notre marque, il y avait des gros sites qui étaient déjà là, qui nous avaient plus ou moins copiés ou qui étaient partis sur des trucs un petit peu proches et on n'avait aucune chance de les rattraper, donc il valait mieux les racheter. Donc là, je suis rentré pendant, je crois qu'on a fait 6 ou 7 acquisitions et là, j'ai fait un nouveau métier qui était de faire du M&A. Et là, je me retrouvais à racheter des boîtes à des groupes de médias ou à des actionnaires ou à des gamins qui avaient monté des startups. Et mon métier, c'était plus de faire de l'internet, c'était d'acheter des entreprises.
Ça t'intéressait ?
Bah, j'avais pas le choix.
Oui, mais je veux dire par rapport
là,
à
quand
tu
dur, dis, quoi.
Tu donnes parce que le MNE, il y a quand même un truc où bon, nous on a c'est un tout autre niveau, hein, en toute humilité, mais acheter, vendu quelques petites boîtes. Il y a quand même un moment où les due deals, les enfin regarder ce qu'il y a sous le capot, lire 12 fois les contrats, faire des trucs, c'est chiant.
Et surtout négocier avec les acheteurs, avec les vendeurs. Ouais. Ben moi j'ai fait ça.
Mais négocier, ça fait c'est presque cool.
Oui oui, non mais après c'est la galère. Puis après il y a intégrer. Une fois que j'ai acheté, moi, que je suis arrivé en disant ça y est, j'ai fini mon boulot, j'ai acheté le site en Allemagne, je l'ai annoncé à la presse. Là, c'est les emmerdes qui commencent.
C'est toi qui intègre, c'est toi qui est de front là-dessus. Ou
ah, moi, c'est moi qui fais ça. Mais après, j'arrête. Et là, c'est mon DG qui prend le boulot. Lui, il récupère les équipes, il faut licencier les Allemands, il faut fermer les bureaux, il faut rapatrier les bases de données, il faut merger les bases. Et là, il part dans les trucs opérationnels de dingue, quoi. Et ça, moi, je suis perdu là. Il y a trop de projets, trop de sujets. Pendant que je suis en train d'acheter les amants, je suis en train déjà de discuter avec Barry Diller pour vendre Mythique ou pour fusionner ou pour lui racheter. Enfin, là, j'ai fait un an, deux, trois, quatre ans de business de M&A, hein, de négo avec des gens dans le monde entier. Et c'était pas mon métier, ça. Pas plus que le reste, d'ailleurs.
Ouais. Bon, après, faut l'apprendre. Tous ces métiers s'apprennent.
Bah, c'est pareil, j'ai appris en faisant.
Ouais, c'est ça.
Voilà, j'ai appris en faisant. La première, je l'ai peut-être pas bien négocié. La deuxième, mieux. Et surtout, c'est jamais les mêmes. T'imagines négocier un contrat d'acquisition en Chine, en 2005?
Ouais.
En anglais, avec des Chinois, avec des filiales à Macao, machin, parce que t'as pas le droit d'aller mettre de l'argent en Chine. Enfin, c'est des trucs. Tu secours, quoi. Quand t'es Alcatel, t'as des équipes. Moi, j'étais tout seul avec un avocat, ma DAF et ma bite et mon couteau, quoi.
On va recommander pour les détails. De toute façon, il y en a un peu partout, mais de lire ton bouquin.
Ouais, parce qu'en plus, je donne les droits à une association. Ouais. Donc, si en plus ça leur fait du pognon, c'est gentil. C'est bah oui, bien. Non, c'est pas pour moi. Hein.
Et ben, je le savais pas. Voilà, et
donc, achetez-le. Et
ça vaut le coup, en plus.
Ça fait un beau cadeau.
Et du coup, on va accélérer jusqu'à cette session de Mythique qui est quand même assez rocambolesque. Comme toutes, peut-être. Mais enfin, là, j'ai l'impression que tes gars au Texas, ils sont un peu.
Je vais pas la raconter, mais je vais juste dire que le mec qui m'a racheté, il s'appelle Barry Diller.
Ouais.
Aux États-Unis, son nom, c'est Barry Killer.
Ouais.
Et ça a été pendant, je sais plus combien d'années d'affilée, le CEO le plus payé des États-Unis. Voilà. Donc ça, c'est le mec que j'ai en face de moi, de ma table, pour acheter un site dans lequel il a mis beaucoup d'argent, avec qui je négocie pendant des années à coups de baffe. Et un jour, après m'avoir convoqué à New York pour m'acheter, et à chaque fois me faire une proposition de merde, pour la trois ou quatrième fois, je me pointe dans mon bureau et j'ai dit, écoutez, vous savez quoi, je vais même pas sortir mon cahier, si vous me refaites une proposition de merde, je me barre. Et le mec me fait une proposition de merde, donc j'avais pas terminé ma phrase que j'étais déjà sorti du bureau, c'était son DAF. Et là, la porte s'est ouverte, Barry Diller passait par hasard.
Alors qu'il y avait des caméras, tu racontes aussi.
Après, je suis sûr qu'il y avait des caméras. Mais maintenant, à l'époque, je m'en étais pas rendu compte. Et il me dit, qu'est-ce qui se passe? Il m'a fait encore une proposition de merde. Donc, écoutez, Barry Diller, je vais expliquer un truc. Je reviendrai jamais dans votre bureau, sauf si dans la phrase que vous prononcez, il y a le mot reasonable. Si vous me faites une proposition où il y a le mot reasonable, on fait un deal. Là, il m'a pris par le bras, par le cou, il m'a amené dans son bureau, il m'a parlé pendant 25 minutes en américain. J'ai rien compris de ce qu'il m'a dit. Mais j'ai entendu trois fois reasonable quelque part. On est revenu dans le bureau du DAF et ils m'ont fait une proposition reasonable qu'on a acceptée.
Et ce mec-là, par exemple, Barry Diller, t'as des relations encore avec lui?
Non, parce que non. Je pourrais, si je lui envoie un mail, il répondra, mais j'ai plus eu d'occasion de travailler avec lui une fois qu'on s'est... Parce que d'abord, je lui ai racheté Match Europe. J'ai fusionné Match Europe et Mythique. On a fusionné, ils ont fusionné, parce que moi, j'ai rien foutu. Et une fois qu'on a fusionné Mythique et Match... On a revendu tout le paquet à Barry Diller. Donc, je lui ai d'abord acheté une boîte et après revendu le paquet. Tout ça en étant coté en bourse, comment te dire? Ça, pour le coup, autant il n'y a pas beaucoup de mecs qui l'ont fait non plus. Enfin, de l'Internet, je parle.
C'est cool de faire ça. C'est quand tu te retournes là.
Bah, c'est dingue, quoi.
Ouais.
C'est comme si je jouais dans un club de foot dans mon quartier et puis qu'un jour il y a un gars qui me dit viens, on va jouer la finale de la Coupe du Monde et tu vas jouer 90 minutes quoi, et tu dis c'est pas possible quoi, et sur le terrain t'as des mecs qui sont les champions du monde et toi t'es là et t'habites ton couteau, tu connais à peu près les règles du jeu mais pas, t'as pas bien encore compris le hors-jeu et il faut jouer et j'ai joué et c'est dingue. Alors bon, maintenant en rétrospective, si j'avais su que ça me serait arrivé, mais j'aurais jamais fait ça, quoi. J'aurais tellement peur que... Bon, bah là, je suis entré sur le terrain, j'étais en short, en crampon, il faut que je cours. Hein. Mais waouh, c'est chaud, quoi. C'est chaud.
Donc là, cette fois-ci, tu fais pas l'erreur de prendre des actions match et des choses comme ça.
Non, là, je prends du pognon.
Tu prends du pognon.
Et ce pognon, je le mets dans Jaina et je l'investis sur 3-4 années dans une centaine de startups, voilà, dont on est en train de finir aujourd'hui la session.
Donc là, vous finissez les investissements.
C'est fini depuis déjà un petit moment. On a toujours une petite poche, mais évidemment, on a beaucoup investi au début et voilà. Maintenant, on est plutôt en période de sortie des boîtes, donc il y en a qui, c'est évidemment, qui sont mortes. Il y en a qu'on a revendues. Il y en a qu'on est encore en train de développer et de revendre.
C'est quoi tes plus beaux succès sur Jaina?
Oh, ben on a fait des beaux trucs. On est dans Devialet, on est dans Winamax, on était dans Wicar, on est dans Media Rhythmic. Enfin, on en a des jolis. Hein. On est dans Made.com. Voilà.
Qui a bossé avec toi, Ning, hein, c'est ça?
Ah oui, Ning était mon stagiaire en Chine, justement, pour acheter la fameuse boîte en Chine. Voilà, donc ça m'a fait 10 ans de ma vie, Jaina. Donc 10 ans e-France, 10 ans Mythique, 10 ans de Jaina. Et puis là, ça se termine et la question, c'était qu'est-ce que je vais faire? Et là, j'ai eu un petit peu de temps pour réfléchir et je me suis dit, finalement, n'oublie pas que ta passion, c'est la littérature. Donc, je me suis mis dans des activités un peu plus artistiques, un peu moins business, donc beaucoup de cinéma, du théâtre. Ça me donne un peu du fond. Et la question se posait de savoir si je crée un Jaina 2. Et la réponse, pour l'instant, c'est que je vais probablement lever un fonds avec des associés pour avoir plus d'argent à investir et travailler cette fois-ci dans une structure de type fonds d'investissement. Donc, on est en train de réfléchir à la création d'un fonds d'investissement qui prendra le relais de Jaina et de ce fonds avec qui je travaille pour investir sur les 10 prochaines années. Voilà, ça sera plus que ça sera pas que mon argent et je serai pas tout seul, loin s'en faut, dedans. Pour continuer à avoir un œil sur l'écosystème et financer des startups, mais en étant plus le seul à bord.
Pour Jaina, alors t'as fait des bons investissements au total. C'est une bonne aventure. Je veux dire, t'es pas perdant.
Bah ça va. Je suis pas encore perdant. Il va falloir attendre de sortir les 4 ou 5.
Et ça représente quoi du montant que tu as gagné? C'est un quart, un tiers, 50%
de ce que j'ai investi. Ouais. 100%.
T'as réinvesti tout ce que t'as...
Le chèque que j'ai touché de Mythique, je l'ai réinvesti 100%.
D'accord.
Ce qui m'a valu les Légions d'honneur, d'ailleurs.
Ouais.
Parce que je suis pas parti. J'ai payé l'ISF pendant des années sur les valeurs des startups, dont la plupart mouraient. Donc moi, je payais avec des chèques et elles mouraient. Et puis j'expliquais à l'État que c'était quand même complètement con de demander de payer de l'ISF sur des boîtes qui allaient mourir. Mais c'était comme ça. Donc je suis resté. Ça a été compliqué, hein, parce que voilà, il nous a pas aidé, Hollande. Et puis je suis resté. Et puis je recommence une deuxième fois, mais dans un cadre un peu plus structuré maintenant.
Donc là, tu faisais principalement du seed, je crois.
Beaucoup de seed et du pré-série A, du série
A. Quand je dis seed, hein, j'explique à tout le monde, mais de petits investissements, entre guillemets, beaucoup de petits investissements. Et là, tu vas faire du plus gros?
Alors, dans Jaina, on a fait des tickets entre le plus petit, ça doit être 100 000 euros, et le plus gros, c'est 12 millions quand même.
Oui, d'accord.
Voilà, non, on n'a pas fait que du seed. On a fait du seed.
12 millions, c'est chez qui?
Chez Devialet.
D'accord. Je suis client depuis peu, tu vois. Donc, très bien. Et donc, aujourd'hui. Par rapport à tout ça, tu remontes toutes ces choses-là. Tu seras le patron toujours?
On est quatre associés dans la société. D'accord. De gestion. Donc voilà. Donc j'ai une société de gestion qui va gérer un nouveau fonds qu'on est en train de lever.
Ok.
Et qui va investir pendant 4 ou 5 ans dans des startups. Pareil, un peu dans le même ADN. Alors, par ailleurs, moi, je dirige deux boîtes, parce que évidemment, je suis toujours entrepreneur, donc je fais du cinéma, mais je suis aussi entrepreneur, donc je dirige une boîte qui fait des lunettes sur Internet, Sensi, et une boîte qui fait des vélos, Héroïne. Donc ça, c'est deux boîtes dont je m'occupe.
Ça fait longtemps, Sensi. Hein.
J'avais dit, je me donne 10 ans, donc ça, on doit être à 8 ans là.
Et t'avais racheté aussi, Sensi, il y a des lunettes, des lentilles aussi, non?
On est le plus gros vendeur de lentilles en France sur Internet et on a créé une activité de vente de lunettes à côté.
Et il y a des boutiques et des...
Il y a 5 showrooms. D'accord. Pour que les gens voient les produits en physique.
Très bien. Et les vélos Héroïnes, il y en a quelques-uns autour de nous là.
Alors celui-là, il est secret, personne ne l'a jamais vu, hein, il n'existe pas encore, mais celui-là c'est le mien. Bon, c'est à la radio, donc vous ne le verrez pas. Donc on travaille sur des petits projets autour d'une de mes passions qui est le vélo.
Du vélo très, très haut de gamme.
Ah ouais, on a voulu faire le meilleur vélo du monde, parce que la France, c'est le plus grand pays de vélo du monde, et on n'avait pas le meilleur vélo du monde. Donc, on s'est dit, on va faire le meilleur vélo du monde. Bon, ça a un prix, hein, on fait à la main, ça coûte très cher. Ouais, mais on a fait le meilleur vélo du monde. Alors, quand c'est moi qui le dis, on me croit pas, mais quand c'est toute la presse qui écrit qu'Héroïne, c'est le meilleur vélo du monde, nous, on est très contents, quoi.
Très rapidement, quelques petites questions. On n'a pas parlé trop d'art. C'est un truc qui a pris de la place dans ta vie un moment.
J'ai voulu découvrir cet univers. J'y connaissais rien. J'ai passé 3-4 ans plongé là-dedans. J'ai acheté beaucoup d'art. J'ai appris. Et puis j'ai eu moins de place sur mes murs. Donc j'ai arrêté d'acheter de l'art. Mais enfin voilà. Bon, ça m'a vraiment intéressé et j'ai trouvé ça formidable.
En effet, je voyais que tu étais un moment plus assimilé à cet univers. Dans toutes ces années, c'est quoi ta perception, la place de la chance et ta perception par rapport à tout ça?
Oh là là. Évidemment que quand tu lis mon livre, toutes les 4 pages, je raconte que c'est un coup de bol incroyable et que c'est dingue et que voilà. Mais avec la réflexion, la maturité et puis peut-être l'âge, je me dis que bien sûr que la chance existe, mais j'ai quand même beaucoup de mal à imaginer qu'elle soit très mal répartie, quoi. Et je parle pas de la chance de naître dans un milieu social, d'un bon côté ou du mauvais du périph, mais dans la vie, on va appeler ces chances, on va appeler ça des opportunités. Finalement, il y en a beaucoup. Et il y a des gens qui les voient. Des gens qui les voient et qui les saisissent, et des gens qui les voient et qui les saisissent pas. Et je crois que ce qu'on appelle la chance, à la fin, c'est un mix de tout ça. C'est beaucoup d'intuition. C'est voilà, beaucoup de courage et puis un peu de chance au sens propre, et que finalement quand on additionne tout ça, l'image que je donne, c'est un train qui passe, chacun à son échelle, hein. Vous êtes sur un quai dans la vie, il y a un train qui passe et les portes sont fermées dans le train et le train passe à toute allure, mais vous savez qu'il y a peut-être une porte ouverte dans le train, mais il faut sauter. Vous savez pas où elle est, vous savez pas laquelle c'est, et puis le train passe très vite, hein. Il faut pas beaucoup de réflexion. Vous avez pas beaucoup de temps. Eh ben, vous sautez dans le train. Et 9 fois sur 10, 99 fois sur 100, 9000 fois sur 10 000, vous ratez la porte et vous retombez sur le quai. Mais là, il y a deux réactions. Il y a dire, oh putain, moi, j'arrête de sauter. Il y a celui qui dit, il y aura plus jamais de train. Et puis il y a celui qui dit, bah, tu sais quoi, je vais rester là. Et puis tant qu'il y a des trains, je vais sauter. Et puis un jour, on sait pas pourquoi, bah, on tombe dans la bonne porte et on va plus loin. Ah, plus loin, c'est peut-être 10 mètres plus loin. Ou parfois, c'est très loin. Mais en tout cas, j'ai sauté. À la fin, est-ce que je dis que j'ai eu beaucoup de chance? Ou est-ce que d'avoir eu la porte? Ou est-ce que je dis que j'ai eu beaucoup de chance? Mais putain, j'ai sauté, quoi. Bah, je sais pas. Chacun fait ça, démerde avec ça.
Est-ce que tu connais Nassim Taleb? Antifragile, ça te parle? Le signe noir, non? Non. Ah, je t'offrirai ce bouquin. Alors, c'est fantastique. Deux dernières toutes petites questions. Trois. Pourquoi tu cours?
Ben ça, faut lire mon livre, parce que c'est la conclusion du livre, c'est que, mais je vais pas raconter mon histoire, mais je veux dire, c'est universel, c'est pourquoi on court. Tout le monde se pose cette question, pourquoi je fais ça, pourquoi j'ai fait tout ça, ou pourquoi j'ai pas fait ça. Et donc finalement, t'as la réponse une fois que t'as fini le chemin. Et donc, ce que je raconte dans ce livre, c'est que si t'es entrepreneur, et que tu vas subir ça, parce que tu subis cette putain de vie qui est vraiment compliquée, même si les gens pensent que c'est moins compliqué que les autres, c'est quand même compliqué de subir tout ça et de se... C'est que t'as un moteur. La question, c'est quoi le moteur? Mais t'en as un. Si t'es arrivé à faire 15 ans d'entrepreneuriat et te relever 10 fois alors que t'es tombé 9, c'est que t'as un moteur. La question, c'est quoi le moteur? Quand tu cours, tu te poses pas la question. Ce que tu sais, c'est que t'as un moteur et tu sais pas où il est et pourquoi il est là. Mais quand t'as terminé le chemin... Ben, c'est très sympa d'essayer de comprendre c'était quoi le moteur qui a fait que j'ai fait tout ça. Et pour ça, faut se connaître. Et donc, mon livre, ça raconte que finalement, ce chemin, il n'a aucun intérêt. Il a juste un intérêt, c'est qu'à la fin, il m'a permis de comprendre pourquoi j'ai fait tout ça. Et donc, c'est ça que ça m'a servi.
Comment tu te connais? Il faut une thérapie?
Faut tout, oui. Entre autres. Ben, faut surtout essayer de comprendre quel était le moteur que tu avais en toi. Parce que si tu fais pas ça, voilà, imaginons que moi, j'ai pas fait ça. J'arrive, là, j'ai fait souple, machin, je dis, oh, super, hein, j'ai une super vie, quoi. Et puis quoi? Mais par contre, te demander, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais comment j'ai pu faire un truc pareil? Mais c'est quoi qui a fait que? Commencer à comprendre que c'était. Et là, t'arrives au but final, c'est que tu t'es trouvé. Donc ce chemin, il m'a permis de me trouver. Et c'est ça que je raconte.
En deux mots, ton orga aujourd'hui, t'es très cadré, t'es très, tu fais un boulot à 8h, tu repars à 8h, tu fais des choses, c'est comme, comment, c'est quoi?
Non, pour l'instant, je suis un peu en flottement parce que tant que mon fonds est pas créé, j'ai pas de contraintes particulières à part répondre à mes mails et puis faire une heure de vélo, deux heures de cinéma, une heure de lunettes.
Tu fais beaucoup de sport, hein.
Et oui, ben ça, de toute façon, à partir du moment où le fonds sera créé, je serai dans un bureau avec quand même des réunions régulièrement, etc. Mais là, c'est un peu, je suis un peu dans une période de flottement. J'ai pas besoin d'être au bureau tous les matins à 8h et pas besoin de repartir à 17h. J'ai un smartphone et je travaille de n'importe où, quoi.
Des emails, tu reçois 8000 par jour, non?
Ah non, c'est fini, ça.
Oui?
Non. Alors vraiment, à l'époque, c'était terrible. Voilà, franchement, une email utile, j'en reçois 3 par jour maintenant.
C'est quoi un mail utile?
Je t'enlève les spams et les conneries, quoi. Ouais. Donc tu vois, bon, voilà, j'ai 3, et encore, je trouve ça compliqué de répondre à 3 mails maintenant. Non, mais c'est vrai. C'est beaucoup plus cool qu'avant, quoi.
Si je devais inviter quelqu'un sur le podcast, dans tous les gens, je sais qu'il y en a plein, tu vois, mais
avec des vieux comme moi qui ont eu des histoires de dingue.
Ouais, mais il y en a plein autour de toi qui sont des bons entrepreneurs. Ça peut être un sportif, ça peut être un artiste, ça peut être. Mais
bon, après, tu les connais tous et puis voilà. Mais il y a un mec qui m'a marqué dans son histoire. Oh, pardon, excuse-moi.
Monsieur.
Qui a vraiment. Faut acheter mon premier livre, mais achetez pas. Et quoi que je crois que je donne aussi à la sauce.
On n'a pas parlé du fail de ce premier livre qui est sorti en plus.
Pendant les pigeons, il est sorti celui-là. Donc personne ne me parlait de mon livre, tout le monde me parlait des pigeons. Ouais, bref.
On n'a pas parlé des dameuses non plus, putain, je sais pas.
Tu pourrais faire une nuit. Hein.
Ouais, ouais.
Et ce livre, il y a un mec extraordinaire dedans qui s'appelle Denis Chalumeau, qui a fait Se Loger vacances, et Promo Vacances. Et franchement. Si Denis est d'accord pour raconter sa vie et
je lui ai déjà parlé à Denis.
Et tu l'as déjà fait
Non, pas sur ce podcast. Je lui ai parlé parce que je voulais lui le faire participer à WeFlash, qui est une boîte que j'ai créée qui fait des shootings photos et vidéos. Et il a tout plaqué lui. Hein. Et il m'a dit j'investis plus.
Mais là où c'est extraordinaire Denis, c'est que tu parlais des mecs qui ont réussi deux fois. Ben lui, non seulement il a réussi deux fois, mais il a réussi deux fois de dingue. Avec une histoire de dingue au milieu, un peu comme moi avec mon Vivendi qui s'écroule et à la fin le mec il devient psychanalyste quoi. Et c'est extraordinaire son histoire. C'est un garçon que j'ai croisé pendant longtemps, on était un peu concurrents mais c'est un garçon que j'ai vraiment redécouvert et putain quand il te raconte son histoire tu dis mais c'est pas possible quoi. Elon Musk quand il te raconte sa vie. Bon, évidemment, c'est x10 parce que voilà. Mais tu te dis, c'est pas possible. Le mec, il avait 5 startups, les 5 étaient en train de mourir, et Musk, il pleurait la nuit, quoi. Et puis, il les a toutes sauvées. Tu dis, c'est pas possible. Bon, ben, Denis, c'est pareil. À l'échelle française, on va dire. Donc voilà, franchement, s'il y en a un que tu dois, s'il avait envie de le faire.
Je crois que j'ai son portable.
C'est Denis Chalumeau.
D'accord. Un bouquin recommandé?
Oh non, mais moi, je lis que des romans. Donc
un roman recommandé, vas-y, quoi. Vas-y, 2, 3, je sais pas. Des trucs à avoir lu dans ta vie, quoi, absolument.
Ah, mais j'en ai 2000. Non, mais là, je peux pas.
Un truc récent, je sais pas.
Un truc récent.
Bon, peut-être.
Il faut, je sais pas, un Houellebecq, plateforme, peut-être. Un Houellebecq, un Fuenkinos, le dernier Goncourt, Chevrotine de Fotorino.
Ok.
Mais ça c'est horrible. C'est comme si tu me disais, c'est quoi mon enfant préféré quoi. J'ai 80 livres. Je peux pas répondre à ça. Je te dis que les premiers qui me sont venus.
Tu lis pas de trucs business du tout, de...
Chier. Ouais. Non, parce que j'en
ai écrit, mais non, c'est pas business.
J'ai pas le temps déjà de lire mes vrais livres. Alors si en plus je dois lire les histoires de, tu sais, les bouquins de business, il faut qu'ils soient lus par les gamins qui veulent monter des boîtes, pas par des gens qui les ont déjà montées. Donc non.
Peut-être qu'il y a un bouquin que tu as le plus offert. C'est une autre manière de reposer la question. Il y a un bouquin que tu as offert plus que les autres?
Ah oui, alors j'en ai deux. Le premier, c'est Belle du Seigneur, parce que pour moi, c'est un... Voilà. Et par provocation, et parce que c'est un truc extraordinaire, j'ai beaucoup longtemps offert à Noël Justine ou Les Malheurs de la Vertu de Sade.
Ah, je l'ai lu.
Qui a été réédité en Pléiade. Et je te jure que ça fait toujours son petit effet qu'au repas de Noël, tu as... Quelqu'un de la famille à qui tu offres un bouquin de Sade, j'ai toujours trouvé ça formidable. Voilà, donc sinon, oui, je les ai beaucoup offerts. Non, mais j'étais en train de me dire qu'il y avait un bouquin qui m'avait passionné sur l'entrepreneuriat à l'époque. J'avais lu La Vie de Tapie, mais j'ai oublié le nom.
Je chercherai.
Et Tapi, qui est un copain maintenant, et à qui j'ai raconté que sans lui, j'aurais jamais fait ça. Parce que quand j'étais à l'armée, parce que dans ma première startup, j'avais oublié de faire le service militaire. Un jour, j'étais appelé et ils m'ont pris par les cheveux, ils m'ont emmené au service. Et c'était très long. Et ma mère m'avait offert, pour que je me fasse pas trop chier, un bouquin sur Tapi. Et j'avais lu l'histoire de Tapi. Je trouvais ça complètement dingue. Voilà. Et c'est le mec qui m'a donné l'envie. De faire ce métier, c'est-à-dire de faire n'importe quoi en espérant que ça marche.
Tu forwarderas mon invitation à Bernard Tapie, tu veux bien?
Ah ben je veux bien, oui. Ça serait formidable que tu l'aies.
Ouais, ah ben ouais, je te confirme. Mais pour lui aussi, c'est une trace qu'on laisse. Ok, et alors la toute dernière cette fois-ci, si tu avais l'occasion, on va dire à ce moment où tu as planté ta boîte à Dijon et tu arrives à Paris, de passer derrière Marc et de lui dire un petit mot et de lui donner un petit conseil. Qu'est-ce que tu te dirais à toi-même ?
De surtout jamais écouter les conseils. Voilà.
Eh ben écoute, j'ai passé un très bon moment. Je suis désolé, je t'ai pris un peu plus que prévu.
Non, je sais pas.
J'ai vu que t'avais pas regardé. Je te remercie beaucoup.
Ok. Merci.
Je vous remercie à tous d'avoir écouté jusqu'ici, de vous abonner au podcast, de le partager surtout, c'est important pour moi, et de le noter sur iTunes. Et puis j'espère que je te compterai parmi mes futurs auditeurs, j'en suis certain.
Eh ben je vais pas m'écouter moi, mais je vais écouter les autres.
T'écouteras Denis Chalumeau.
J'écouterai. Ah voilà. Tu me feras bing quand Denis l'aura fait.
Ça marche. Merci.
Merci beaucoup. Marc.
Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à deux personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@causavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.